Bonsoir, bonsoir, ravi de vous retrouver. Cette musique, c'est pas le combat qui vient de s'achever entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais à l'avantage des Parisiens, mais c'est pour vous dire que dès demain, lundi, débute la saga Rookie sur la chaîne L'Équipe. On est vraiment très heureux de vous proposer ce grand classique du cinéma mondial. J'espère que vous allez vous régaler. Ce soir, on parlera tout de même de football, du Paris Saint-Germain, de l'Olympique Lyonnais. Il y a beaucoup à dire sur cette rencontre qui a été spectaculaire. On parlera notamment de Bradley Barcola, de Gonçalo Ramos et de ce PSG. Alors, est-ce qu'ils sont en route pour un triplé historique? On parlera aussi de l'Olympique de Marseille qui a fait match nul face à Toulouse et du Classico cher à Eric Blanc entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Pour m'accompagner, un casting merveilleux, le président et le président à vie de L'Équipe du soir, c'est Didier Roustan.
Bonsoir.
Ça va Didier?
Il y a moyen.
Vous aimez Sylvester Stallone?
La saga de Rocky, comme tout le monde, j'étais gosse, ouais, bien sûr.
Fantastique. Pour vous accompagner ce soir, c'est le Men in Black de L'Équipe du soir, Grégory Schneider.
Bonsoir messieurs, dames, bonsoir à tous.
Ça va Greg?
Très bien.
Je crois que vous avez passé une très bonne soirée.
Ah, si le foot c'est ça, j'en veux bien en intraveineuse.
Vous parlez de quel match?
De PSG Lyon.
Et c'est bien, pour une fois qu'on fait de la publicité à la Ligue 1. Hein. Voilà. Bravo Grégory Schneider. À vos côtés, Eric Blanc, Rico Blanco de La Plata. Ce soir, est-ce que vous êtes un homme heureux, Eric?
C'est toujours en cours. Je n'ai pas le score final.
Pour le Real Madrid, bien sûr.
Ah oui, oui. Bah, après, le PSG, il a tout dit, c'était sympa. Je me suis tapé la deuxième mi-temps de Brest-Monaco, c'est pas la même.
Ok, merci Eric d'être avec nous. En face, c'est le dog de L'Équipe du soir, c'est Ludovic Obraniak. Je suppose aussi heureux puisque Lille a gagné aujourd'hui.
Oui. Et mon pronostic?
Une boucherie.
Bravo, bravo, bravo. Bien sûr, Club Erlang, ça c'est dans le 3, ça sera à vivre aussi sur la chaîne L'Équipe.
Qui va manger ses morts au jeu ce soir? Hein? Qui va manger ses morts?
Attends, tu l'as vu, moi?
Hein? Tu l'as vu? Référence bien sûr au tweet très engagé de Ludovic Obraniak envers Emiliano Martinez. Le professeur de L'Équipe de soir nous accompagne, Dave Apadou. Bonsoir Dave.
Je pense qu'on fera pas mieux que ce tweet, ou pas pire.
Ou pas. Non mais c'était engagé quoi.
Ah ben ça oui, je vous le confirme.
Allez, sans plus attendre, on va avancer. On va saluer Romain Aran, puisqu'il y aura le journal du Hard ce soir. Mais surtout, Romain, régalez-nous les images de ce choc au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais.
On a vécu un très beau match pour ce qui sera aussi la finale de la Coupe de France un petit peu plus tard dans la saison. Mais en tout cas, ce soir, le PSG n'a fait qu'une bouchée de l'Olympique Lyonnais. Le premier but dès la troisième minute, c'est Matic contre son camp. Sur ce petit centre de Marco Asensio, ça fait 1-0. Puis 2-0 avec un but de Beraldo sur corner dès la 6e minute de jeu. Magnifique centre d'Hakimi, tête de Ramos, 3-0 à la 32e minute. Lyon qui va revenir à 3-1 sur un joli numéro d'Ernest Nouama. 3-1 à la 37e minute. Puis 4-1 à la 42e, belle action parisienne. Asensio qui sert Ramos, qui s'offre un doublé. Ramos qu'on est d'ailleurs à 10 buts en Ligue 1 cette saison. Et donc le PSG s'impose 4-1. Le PSG plus que jamais en tête de la Ligue 1.
On retrouvera aussi dans quelques instants Timothée Mémon qui a eu la chance d'être au Parc des Princes pour voir cette rencontre. Romain, s'il y a des réactions qui tombent, bien sûr, vous intervenez. On va commencer avec cette thématique toute simple mais néanmoins passionnante. Le PSG vous a-t-il enchanté ce soir, habillage à la parisienne? Ludo?
Oui.
Dave?
Ah oui, vraiment.
Oh là là, ouais. Vient du cœur. Ah oui, vraiment. Grégory?
Plutôt deux fois qu'une.
Plutôt deux fois qu'une. Eric?
Oui, un PSG de gala.
Un PSG de gala. Président?
C'est un bon PSG.
Un bon PSG. J'ai envie de vous entendre, président, parce que vous êtes parfois critique avec le niveau de la Ligue 1. Ce soir,
j'ai commenté un match vendredi soir et un autre samedi soir. ça vient là. C'était le choc. Après, c'est vrai, Paris mène 2-0 très rapidement. Lyon a beaucoup d'occasions, comme au match aller d'ailleurs, où ils ont beaucoup d'occasions. Et après, ouais, un Barcola de gala. Notamment.
On en parlera de Barcola avec les Bleus notamment.
Ce qui était agréable, c'est que bon, 4-1, tu as l'impression qu'il n'y a qu'une équipe sur le terrain. Je trouve que Lyon a aussi, même s'ils ont été quand même débordés et qu'il n'y a peut-être pas le talent de finition derrière. Après, sur les contres, c'est-à-dire Paris peuvent faire les deux. Hein, ils peuvent comme chercher Luis Enrique, avoir une équipe si tu veux difficile à contrer. Ils sur les contres, ils te massacrent. Et en jouant, ils peuvent également. Donc, ouais, il n'y avait pas photo quand même.
Ça venait du cœur.
Mais c'était agréable.
C'était agréable. Ça venait du cœur. On l'a senti sur le PSG. C'est vrai que le niveau du PSG a fait beaucoup de débats cette saison. Ce soir, dans le prolongement de ce qui s'est passé à Barcelone, c'est encore une démonstration.
Oui, parce qu'il y avait une fluidité ce soir. Alors, il y a l'efficacité, mais c'est une équipe qui a déjà montré qu'elle pouvait être efficace, marquer beaucoup de buts en finalement un peu de volume d'occasion. Là, ce soir, non seulement il y avait le volume, il y avait le volume d'animation, il y avait de la qualité technique, il y avait de la connexion entre les joueurs. C'était pas des à-coups où on met hors de position l'équipe adverse parce qu'on a plus de talent. Là, c'est vraiment une connexion collective, c'est fluide, ça s'enchaîne bien. Il y a des joueurs qui, évidemment, sortent du lot, mais tous les autres étaient au diapason. Donc ça a donné franchement un ensemble très, très harmonieux. Moi, j'ai adoré ce que j'ai vu. Et c'est pas loin d'être leur meilleure performance de la saison. Parce qu'en fait, effectivement, il y a Barcelone, c'est très réussi. Mais effectivement, il y aura toujours... Ce point un peu de
le carton rouge.
Oui, le carton rouge. Alors qui ne doit rien à personne, qu'ils sont en plus allés provoquer parce que ça tombe pas au milieu de terrain, un peu n'importe quoi. Ils sont allés provoquer, mais du coup, l'analyse derrière, elle est un peu plus compliquée à établir sur vraiment ce que valait ce PSG. Là, ce soir, j'avais aucune réserve. Je me suis régalé.
Avant d'entendre Grégory Schneider qui boue d'impatience de prendre la parole, mais c'est bien, ça veut dire qu'il a envie de s'exprimer de manière positive. On va retrouver Timothée qui a eu de la chance de voir ce match du stade. Timothée, ce type de soirée, vous faites beaucoup de matchs de Ligue 1. C'était un match de très très haut niveau. Est-ce que vous, Paris, vous a enchanté ?
Oui, bonsoir Giovanni, bonsoir à tous. Forcément, Paris m'a enchanté parce que c'était un match enchanteur, tout simplement, parce que Lyon n'a pas joué les victimes expiatoires. Bien au contraire, Lyon a produit du jeu. Le Paris Saint-Germain lui a été logiquement supérieur, mais l'a fait avec brio. Et tout à l'heure, Giovanni, tu parlais de la continuité de la qualification à Barcelone. Et ça s'est ressenti. Ça s'est ressenti au stade parce que clairement, le public était là, certes, pour voir une belle affiche du championnat, mais ils étaient aussi là pour célébrer la qualification, pour remercier l'équipe d'être allée se qualifier à l'extérieur. Et moi qui trouve parfois l'ambiance du parc un peu pépère, un peu convenue, alors certes je suis biberonné à Geoffroy Guichard, mais c'est une chose, reste qu'aujourd'hui on a vraiment vu une belle ambiance, on a vraiment vu quelque chose de puissant autour du Paris Saint-Germain. Le public ne s'y est pas trompé, le public aussi a été enchanté.
J'aime quand... Oh là, c'est-à-dire... Qu'est-ce qui se passe ? On me dit dans l'oreille, Antoine Meck qui m'accompagne à l'édition, il me dit le Real Madrid s'est imposé 3-2. J'aimerais qu'on ait quand même un peu de compassion on en parlera.
Mais... Ma vie, hein, cette semaine, le plus important, c'était la Ligue des Champions.
Mais
Ligue,
ça s'est bien passé d'ailleurs.
Elle est perdue depuis longtemps.
Ouais.
Bon. Enfin, avec 8 points, enfin 11, 8, c'est... tu reviens pas sur le Real. Sauf qu'il y a quelques interprétations d'arbitrage qui, à mon avis, vont faire parler en Espagne.
On en parlera dans quelques instants, bien sûr. Les images avec Romain Aran tout à l'heure. Merci Timothée, vous intervenez quand vous voulez. On va poursuivre sur cette victoire parisienne 4-1 face à l'Olympique Lyonnais. Il a regardé le match en notre compagnie. Parfois, Grégory Schneider monte à la rédaction, nous fait l'honneur de sa présence. Il a pris beaucoup de plaisir ce soir, le Man in Black de l'EDF.
C'est ma place naturelle.
Comme... Non, pas la rédaction de Libé, paraît-il.
Si,
quand vous êtes quand même souvent chez nous, quoi.
Il y a un truc intéressant par rapport à ce que dit Dev sur la force collective qui s'est dégagée. Ils avaient mis leurs deux meilleurs joueurs au frigo, Dembélé et Mbappé, et ça s'est pas vu. Et ils ont repêché les deux grands brûlés du match aller contre le Barça, qui sont Beraldo et Asensio, qui ont été l'un et l'autre, ils ont marqué chacun.
Mbappé est en troisième brûlé du match en question.
Oui, oui, mais
non, parce que tu dis le meilleur élément, mais d'un autre côté, tu me parles des brûlés, mais il est troisième brûlé.
Oui, bon, après on peut toujours, en tout cas...
Oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire.
Ce que je veux dire, c'est que tu laisses tes deux meilleurs joueurs au frigo et t'as cette continuité-là, t'as ce niveau-là. Et en plus, on n'a même pas perdu en vitesse, alors que c'est quand même deux dragsters que tu laisses. Et tu récupères deux joueurs.
Tu pourrais
qui
donc jouer sans Mbappé.
Si je pouvais, non mais,
oui, mais
si je pouvais finir, juste
bien
là.
Bien sûr.
Ouais, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un côté un petit peu démonstration de Luis Enrique là-dessus. Ouais. Tu vas rechercher
Luis Enrique
en échec, tu ramènes tout le monde. Voilà, il y a quand même un petit côté.
C'est pas la première fois.
Non, c'est pas la première fois. Mais
ils ont fait un match très abouti au Parc des Princes contre l'OM. Bah, l'un de tes non brûlés ou l'un de tes meilleurs, comme tu dis, Mbappé était pas là. Et contre Monaco, ils ont fait un match vraiment abouti où ils les ont explosés, même si Monaco avait fait un bon premier quart d'heure.
Ouais, ils ont explosé.
Au parc
Didier, ouais. Et Mbappé avait été transparent. Donc tu as la possibilité.
Vous essayez de me dire que c'est mieux de jouer sans Mbappé, en fait.
Non.
On n'est pas très loin quand même, Didier.
Non, je suis.
Laissez le président s'exprimer.
Mais je peux te dire que il est mieux d'avoir Mbappé étincelant pour gagner des matchs, pour aller loin où tu veux, etc. Mais si Mbappé, ce soir-là, n'est pas inspiré à un joueur, un Kai Walker ou un gars, parce que voilà, tu as 60 matchs dans l'année, tu peux pas être 60 matchs comme ça, qui que tu sois, même si
tu es
Mbappé.
Si tu t'appelles Mbappé.
Et je veux dire, la bonne nouvelle, et Enrique a réussi à mettre ça en place, puisqu'on essaie de nous faire penser que si Mbappé n'est pas là, c'est une catastrophe. Si Mbappé est là, normalement, c'est mieux. Mais si demain il est suspendu pour un des deux matchs contre Dortmund et tout, la vie continue. Et ça, je trouve que c'est vachement important,
la
puisque
continue, ouais.
Cette histoire de Mbappé, dépendance, de j'entends avant le match à Barcelone, il faudra un grand Mbappé parce que tous les grands spécialistes, les grands experts, sinon on ne passe pas. Il n'y a pas eu un grand Mbappé, il n'y a pas eu un mauvais Mbappé, il y a eu un bon Mbappé, mais il ne fait pas partie des 3-4 meilleurs. Si tu veux, Mbappé a pu être plus exceptionnel que ce qu'il a montré machin. Ah pardon, excuse-moi, c'est vrai que j'ai entendu dire partir partout que c'est grâce à sa sobriété que les mecs ont été bons.
Non.
Mais ce que je, ce qui est important. Et c'est ce que voulait Enrique, c'est qu'il a, comme je le disais déjà, une équipe assez imprévisible, une équipe où de tous les côtés, avec Mbappé bien évidemment, mais s'il est un peu moins machin, ou parce que Barcola a pris une dimension,
déjà.
Et si Barcola, il ne le fait pas tourner, on savait que Barcola était fort, mais qui va me dire aujourd'hui qui pensait que Barcola aussi rapidement aurait atteint niveau.
Personne.
C'est facile à dire. C'est facile à dire maintenant.
Non, mais
on en reparlera.
Pas moi non plus,
Barcola,
pas truc
voilà,
et tout.
Voilà.
Et donc, je pense que dans la progression des joueurs, Luis Enrique a aussi, et dans les compositions,
forcément,
même si certaines paraissaient un peu baroques, Dembélé dans l'axe ou des choses comme ça, je veux dire, il a 10 000 cartes à sa disposition, et je trouve que c'est une force terrible par rapport à d'autres formations qui, le jour où ça marche pas trop,
on pas d'alternative.
Ben ouais.
Ludo.
C'est peut-être un peu l'avenir aussi, quelque part, j'en sais rien.
Ludo, par rapport à ça, on s'est tous fait la réflexion, on a vu la compo. Bon, être Dembélé sur le banc, il n'y a pas de Kylian Mbappé ce soir, c'était un choc important. Est-ce que ce soir, c'est la preuve que Luis Enrique, en fait, c'est l'homme fort du Paris Saint-Germain cette saison, celui qui domine tout, la star du Paris Saint-Germain cette année?
Je peux aller dans le camp du oui, puisque oui, alors il y a eu ce fameux débat, il est devenu fort quand il a appris la nouvelle, et néanmoins, je trouve que au-delà...
La nouvelle du départ de Mbappé.
Voilà, au-delà du cas Mbappé, je trouve qu'il y a des promesses sur lesquelles on a eu longtemps des doutes, et encore...
Quand tu nous as dit on sera meilleur en février.
Ouais. Face au Barça, où moi j'ai toujours loué ce système du turnover, et ça il l'exprime depuis très longtemps, dès son arrivée, il a dit, moi je gagne pas, je vais pas gagner la Ligue des Champions avec 12 joueurs. Moi j'irai gagner la Ligue des Champions avec 18, voire 20 joueurs.
Il a dit 21, 23
ouais.
joueurs.
21, donc, 23 ce qui, bon, ce qui est pas neutre, c'est pas tout le monde. Les coachs, généralement, t'as une équipe type, t'as 2-3 mecs que tu changes.
Oui, mais Ludo, il faut bien être conscient, quand même, que ce PSG-là, je sais pas si tu es d'accord, n'est pas le meilleur PSG 1 de l'histoire et n'est pas une équipe, une des meilleures équipes d'Europe, une des meilleures équipes après 2-3 équipes sûres.
T'es pas loin quand même.
Mais t'es pas loin, mais attends. Manchester City, c'est plus fort.
Mais si on aura un thème sur la Ligue des Champions.
Ah bon, Manchester City, c'est pas plus fort.
Non, mais le Real Madrid.
Messieurs, Real Madrid, c'est pas plus fort. Alors, ils battront peut-être le Real Madrid en finale.
Si on aura un thème là-dessus, on ira.
Il est obligé de composer. Quand à Barcelone, il a Suarez, Neymar en feu et Messi encore relativement jeune. Il te dit pas, je vais gagner avec 21. Et il a Busquets, c'est tout ça et tout.
Oui, non.
Et il a encore Xavi.
14 mecs. Ouais.
Voilà.
Ouais.
Là, je pense qu'avec l'équipe qu'il a, un Barcola en devenir, un Zaïmri, faut quand même le protéger. Un Mbappé qui dépend quand même des autres par rapport à sa position sur le terrain, etc., etc. Avec ce PSG là, c'est peut-être comme ça qu'il a peut-être une chance de le gagner. S'il a 11 cracks, il te dira pas, j'en ai besoin de 21.
Bien sûr. Voilà. Eric, on vous a pas encore entendu sur le match par rapport.
On m'a pas beaucoup entendu non plus.
Non, mais toi, vraiment, j'étais mort.
Cela dit,
tu es l'homme des tweets.
On m'a pas beaucoup entendu non plus.
Mais on va vous entendre, Ludo, vous inquiétez pas. Tout le monde aura la parole.
Parce que si on fait un podcast,
on te lit
sur podcast Didier Roustan.
On te lit. Il y a un moment, je suis obligé de faire partie du truc. Maintenant, jusqu'à la fin de l'émission, parler, j'écoute.
Il se met en mode présidentiel. Eric.
Je me mets en réserve présidentielle. Appelez-moi s'il y a un problème.
S'il y a besoin.
J'arriverai pour couper l'onde.
Très bien.
Eric, juste on va recentrer sur le match du soir, parce qu'on aura un débat sur le PSG, la Ligue des Champions, le triplé, sur la production du Paris Saint-Germain, sur la notion collective. Est-ce que ce soir, vous avez pris du plaisir avec ce PSG-là?
Ouais, enfin, je reviens quand même, moi, sur la force du PSG. La grosse différence, c'est que dans le baquet de la Formule 1 du PSG, t'as Tom Cruise. Mmh. Et on l'a chambré, notre ami Luis Enrique. Mmh.
Vous ne faites pas un coup de Danny Boone, là, quand même?
Non, mais tu l'as. Parce que j'ai entendu beaucoup de choses, et lui, il souffre, mon ami, à côté, il pense que...
Grégory Schneider.
Oui, il souffre, ça veut dire, il pense qu'il n'apporte rien. Bien sûr que la victoire...
Ah non,
non. Bien sûr que les... Non, mais tu souffres, donc pour moi, souffle pas, alors.
Non, une chose. Non, mais voilà. Souffler n'est pas jouer.
Je ne pas dans mes oreilles, je t'entends. On dirait un éléphant quand j'ai dit ça. La seule différence, c'est que... Il a insufflé un état d'esprit. Bien sûr que, il a mis Mbappé une fois qu'il a eu l'autorisation parce qu'on a su qu'il partait. Mais ouais. La grande nouvelle quand même, c'est que ce PSG demain jouera sans le PSG dans 4-5 mois pour l'année prochaine.
Sans Mbappé.
Oui. Et là, tu vois bien qu'il est en train de construire. Il a eu toujours cet état d'esprit. Il a été critiqué, remis en cause. Il a dit qu'il serait bon en février. Ils sont bons, on va dire, avec un mois et demi de retard, plutôt fin mars, avril. Mais aujourd'hui, tu vois que tu peux te passer de certains joueurs et qu'il a fait un collectif. Pour rebondir à ce que j'ai entendu, ils ont raison. En 2015, la MSN, elle bougeait jamais.
Non, messieurs, s'il vous plaît, on aura un thème sur la Ligue des Champions.
Mais on
va pas passer l'émission.
C'est qu'il faisait pas tourner. Mais oui. Une fois qu'il a pris l'équipe d'Espagne, ça a été un laboratoire sans cesse.
On aura le temps de reparler de cette notion de triplé de Ligue des Champions.
Tout ça pour dire que oui, j'ai adoré. C'est des partouzeurs. Il joue, il change.
Il est un peu tôt quand même pour les notions
de. Il change de poste partout. Non, mais il change de poste.
Partout.
C'est la polyvalence.
Oui.
Bon, ça plaît ou ça plaît pas. T'as des résultats ou t'en as pas. Mais en tout cas, tout le monde est heureux de jouer. Et là, moi, ce qui m'a surpris,
c'est
qu'aujourd'hui, les mecs se sont embrassés, félicités. Ils pensaient pas une minute. Les mecs sur le terrain.
Oui, oui, bien sûr.
Dembélé et Mbappé. Et là, dis-toi quand même que ce soir, après ce 4-1, il est encore plus fort, Luis.
Mais on peut avoir quand même une réserve.
Oui, allez-y, Dave.
Non, mais en tout cas, moi,
il simule la concurrence.
Ouais. Non, mais
à tous les niveaux, à tous les étages.
Dave, allez-y. Moi, la réserve, par contre, que j'ai, enfin, qui est peut-être relative, c'est les prochaines semaines qui vont nous dire si c'est rédhibitoire ou pas. C'est, je trouve que c'est une équipe, par contre, alors elle est plaisante, là, en plus, dans son expression, mais pas tous les jours. Hein. Si on en fait autant sur ce match, c'est que c'est pas toutes les semaines.
Non, bien sûr.
Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que c'est une équipe, par contre, il y a une constante, c'est qu'elle est très mal protégée. Elle est très mal protégée, elle concède beaucoup d'occasions.
Y compris ce soir.
Exactement, y compris ce soir. Ouais. Parce qu'effectivement, je ne sais plus qui a dit, 4-1, on a l'impression que c'est une promenade de santé. Mais je me demande, c'est pas
de
Timothée.
Même nombre de tirs cadrés voilà. et plus de tirs cadrés que les Lyonnais.
Et je trouve que Lyon a montré que, franchement, c'est une équipe que ce PSG est vulnérable. C'est-à-dire que tu peux rentrer dans cette défense, finalement, assez facilement. Barcelone l'a montré même à 10 contre 11, ils ont des occasions. Souvenez-vous de revenir à 3-2, t'es sauvé, le poteau, le bout du gant de Donnarumma et tout. Attention, hein, je suis pas en train de dire... Ce qu'ils font, c'est pas bien.
Une évidence, Dev. Et c'est la, voilà.
C'est
la limite de cette équipe.
Il y a un truc là, quand même, qu'il va falloir
poser. C'est une équipe aussi qui prend des risques quelque part.
Mais c'est normal, ils attaquent.
Oui.
Et quand t'attaques, tu te découvres un peu. Vous pensez que les mecs arrivent à être aussi forts défensivement que lorsque, offensivement, t'as autant d'intention?
Ça, c'est
atroce. Non, mais c'est une équipe qui attaque, mais qui fait pas un pressing constant pendant 90 minutes à la récupération du ballon. C'est pas le Liverpool avec le Ginsan pressing. C'est pas Ginsan, mais je dis toujours Ginsan. Enfin, on s'est compris. Ou effectivement, le Barça avec son pressing. Enfin, le Barça d'avant. C'est une équipe, effectivement, qui attaque, mais qui
s'accommode. Si je puis me permettre, c'est une équipe qui s'accommode du déséquilibre.
Aussi.
C'est-à-dire qu'ils arrivent à surfer sur effectivement leur force offensive, quitte à payer un peu le prix derrière. Mais c'est une équipe qui a pris ce parti-là.
Parce que tu crois que c'est voulu ça?
Ah oui. Oui.
Ah, moi, j'ai du mal à croire que Luis Enrique accepte de ne pas avoir.
Je pense qu'ils n'ont pas le choix.
On va juste aller voir Timothée, s'il vous plaît, parce qu'après, il y a les conférences de presse qui vont débuter. Bon, vu qu'il y a eu beaucoup d'interventions, Timothée, je ne sais pas sur quoi vous voulez réagir. Vous avez carte blanche.
Non, mais c'est vrai que certaines choses ont un peu été déflorées, mais le fait est que au soir de la sixième journée de Ligue des Champions au mois de décembre, Luis Enrique nous disait vous allez voir ce que vous allez voir, en février on sera bien meilleur, et on a beaucoup critiqué Luis Enrique parce que en février il n'était pas bien meilleur. Alors il faut être honnête intellectuellement et quand même s'accorder à dire que depuis quelques matchs, c'est quand même nettement mieux, parce que ce qu'on a vu même à l'aller contre Barcelone, ce qu'on a vu au retour contre Barcelone, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est quand même un PSG beaucoup plus intéressant, flamboyant sur le plan offensif. Je suis d'accord aussi avec ce qui a été dit, je crois, par Dev. C'est une équipe qui concède énormément d'occasions. Et cette équipe, si elle veut réaliser ce triplé totalement historique, elle va peut-être devoir apprendre à s'équilibrer un petit peu défensivement. J'ai entendu ce qui a été dit sur l'idée d'un déséquilibre consenti d'une certaine manière par le Paris Saint-Germain. Je pense que pour aller au bout du bout en Ligue des Champions, puisque c'est bien de cela dont on parle, cette équipe, elle va devoir apprendre à concéder un peu moins d'occasions. Après, est-ce que Luis Enrique est devenu l'homme fort du Paris Saint-Germain? Ils vont peut-être être champions dès cette semaine. Ils vont pouvoir, alors même si c'était bien évidemment acquis, ils vont quand même pouvoir se concentrer pleinement sur la Ligue des Champions sur la fin de saison, gérer les temps de jeu. Encore une fois, avec toutes les réserves qu'on peut avoir sur Luis Enrique, bah, ce soir, ça ressemble quand même à un sans-faute, quoi.
Merci beaucoup Timothée, dans quelques instants les réactions avec vous, je crois que c'est Jérémy Janingro qui vous accompagne, on entendra d'ailleurs le coach espagnol. Ludo, on a parlé de Lyon un petit peu, on a dit pour faire un grand match il faut deux équipes. Mm-hmm. Est-ce que vous avez aimé l'attitude des Lyonnais ce soir?
J'ai bien aimé l'attitude et surtout celle de Sage. Moi qui suis Lyon depuis un petit moment, en fait il y a un cas de conscience qui a dû se poser à cet entraîneur-là, c'est que lorsqu'ils débutent les matchs, ils avaient plutôt une point de base, donc au milieu de terrain 3, avec plutôt Matic en sentinelle. Or, depuis quelques matchs, à l'heure de jeu, dès qu'ils passent avec une pointe haute,
ils sont, 4-2-3, ouais.
Ils sont bien meilleurs. Donc je comprends l'idée de Pierre Sage de se dire, bah, tu sais quoi, je vais le tenter. Je vais le tenter contre Paris. Et il faut être deux pour faire un bon match. On a vu un bon match ce soir. Oui. On a vu le spectacle. Mais ça, on le doit aussi aux Lyonnais qui ont eu le courage de se dire, ok, on le tente, je mets Cherki plutôt en 10, on tente un truc. Et c'est culotté, parce qu'avec la défense que tu as, oui. Jouer ce football-là, ouais. À Paris, je trouve que c'est, en tout cas, il se rééquilibre à la mi-temps, mais je loue le fait qu'il tente, oui. Un coup. Voilà. Moi, ça me plaît. Je trouve que c'est un entraîneur qui a une vraie réflexion footballistique. Il a senti que son équipe pouvait tourner mieux à ce moment-là. Il jette le dé, il se dit, bon, bah, si ça fait 6 banco, bon, bah, là, ça fait 2. Ouais. Bon, bah, voilà. Mais je salue la prise d'initiative et le changement, parce qu'à la mi-temps, il se rééquilibre un peu. Et finalement, lorsqu'il passe en deuxième période à 5, là, ils ont 2-3 situations.
C'est, ils concèdent c'est 0-0 un peu la deuxième mi-temps.
Ouais, ils concèdent moins, oui. Et tout. Mais je salue le panache de Pierre Sage.
Et c'était important de le dire. Timothée l'a dit dans son intervention. Romain, le PSG peut être champion cette semaine?
Absolument. Ce sera lors du match de mercredi. En fait, si le PSG gagne à Lorient et que Monaco, qui est actuellement deuxième, ne gagne pas contre Lille, le PSG sera officiellement champion de France, donc dès mercredi soir.
Romain, vous êtes très bon, vous allez garder la main. On va revoir les images de cette rencontre spectaculaire au Parc des Princes, allez-y.
Vous me complimentez souvent, Giovanni.
J'essaye, modestement.
Effectivement, le PSG s'est imposé 4-1 ce soir donc au Parc des Princes face à l'Olympique Lyonnais. Ça s'est joué très rapidement en première période. Tout s'est fait en première période, même avec un premier but contre son camp de Nemanja Matic. Dès la 3e minute de jeu, 6e minute de jeu, Beraldo sur corner, ça fait 2-0.
C'est Barcola qui...
Ouais. Ensuite, la tête de Ramos sur un superbe centre d'Hakimi.
Cacré.
Nouama, le joli numéro du Lyonnais pour ramener l'OL à 3-1 et redonner un petit espoir aux Lyonnais que les Parisiens vont rapidement doucher à la 42e minute avec un doublé. Donc pour Gonçalo Ramos, je le rappelle, le PSG est leader de Ligue 1 pour être champion mercredi et l'Olympique Lyonnais est 8e.
Puisqu'on parle d'Olympique, on parlera aussi dans cette émission de l'Olympique de Marseille qui a fait match nul de partout face à Toulouse. On verra les images avec vous. On en a un petit peu parlé là, avec des champions, forcément, on est obsédé par cette histoire. Il y a une demi-finale qui arrive. Messieurs, la question est toute simple, habillage à la parisienne. Voyez-vous ce PSG réaliser le triplé? Ludo.
C'est peut-être l'année où on les voyait le moins, mais pourquoi pas.
Oui, oui.
Pourquoi pas, oui.
C'est un oui?
Oui, oui.
Dev?
Ouais, de plus en plus.
Oui. Oh, là, je m'attendais pas autant.
C'est vrai,
ouais. Ouais. Ouais, non.
Ouais.
Greg?
Dans le contexte, oui.
Eric?
Aucune certitude. J'en ai pas.
Mais est-ce que vous, vous les voyez le faire? Là, c'est votre conviction.
J'en sais rien. Je vois de l'autre côté un Bayern quand même qui se refait, qui a lâché le champion. J'en sais rien.
Mais ça. Il a soufflé.
Pas de souci. Je vais l'entendre. Dans le contexte, je vais lui dire. Dans le contexte actuel, on peut supposer
le Bayern.
Que le
Bayern.
oui. On en reparlera. Alors, non, mais je peux lui faire. Dans le. Alors, Grégory Schneider, voilà, je me mets dans sa peau. Vu les circonstances.
Là, vous imitez Greg?
Non, mais il va donner les arguments.
Oui, bah, encore faudrait-il que je les donne. Parce que
mais non, mais je vais te les donner à ta place. Tu les redonneras derrière.
Non, puisque
le PSG est champion. Il est en finale. C'est pratiquement doublé. Il est en demi-finale. Il est champion. Personne ne l'attendait avec un nouvel entraîneur, une concurrence. Ils ont l'air. L'expression collective va de mieux en mieux. Ils maîtrisent la largeur, la profondeur. Ils peuvent aller vite en transition. Ils peuvent, bien sûr, ils concèdent quelques buts. Mais sur ce qu'il y a, ils jouent Dortmund. Dortmund, ils les ont battus 2-0 à Paris. Au parc, ouais. 1-1 là-bas. Donc, c'est encore jouable. Faudra se méfier. Donc, ils se retrouvent en finale. Donc, tout est possible. Donc, je dis que tout est possible, mais j'ai aucune certitude. Face à un Bayern qui est naze, qui vaut plus rien. Et le Real Madrid est très fatigué, qui vient de battre le Barça. Voilà. Mais lui, il est sûr. Que ça, ils vont être champions.
Et en plus, ils voilà. Soufflent. Et on... Dans une seconde, la réponse de Greg, beaucoup. Président, vous sur le triplé, vous y croyez ou pas?
Non, mais vous en êtes sûr? Je ne suis pas sûr.
Je suis sur la même ligne. La même ligne d'Eric, parce que il faut quand même bien être conscient qu'en huitième de finale, tu as passé enfin ces huitièmes de finale, mais enfin, les années d'avant, tu tombes contre le Bayern, tu tombes contre le Real, enfin, tu tombes contre une équipe qui est décimé et qui n'a pas gagné un match depuis 2 mois et demi ou quelque chose comme ça. Après, le match contre le Barça, il est quand même particulier. Il y a un bon parfum. Le parfum de joueurs archi motivés, qui ont tout à gagner, qui ont une fraîcheur. Je crois que c'est important de le souligner. Athlétique. À un moment, le PSG, athlétiquement, enfin, il y avait toujours un blessé, 2 blessés, 3 blessés au moment d'écart ou des choses comme ça. Et là, tu as l'impression, en tout cas, que le staff médical et donc le staff technique, le fait de faire tourner, un petit peu de réussite, de chance, je sais pas trop quoi, c'est vachement important. Si tu passes Dortmund, moi, je pense plus le Real. Ça peut être le Bayern aussi, parce que c'est quand même gros le Bayern. Après, c'est sur un match. Mais l'histoire du football te montre que, effectivement, le Marseille 93 qui gagne, qui était une bonne équipe, était moins fort que celui de 91. L'histoire que nous a encore montré la Côte d'Ivoire avec la CAN. Il y a des éléments comme
Chelsea,
ça.
Chelsea 2012, ils gagnent l'année où ils doivent pas gagner. Voilà.
Di Matteo, le Chelsea est bien moins fort. On est d'accord. John Terry est plus
parfois
là.
Parfois, ça s'agence comme ça.
C'est un peu l'histoire du foot. Oui. Et donc, on peut pas les suivre.
Qui échappe après, un peu à la rationalité, à l'analyse.
Je crois que vos propos ont fait réagir Timothée Mémon. Il souhaite vous répondre.
Il a soufflé aussi.
Je sais pas.
Non. J'entends dire qu'il faut féliciter le staff médical du Paris Saint-Germain, et c'est probablement vrai. Il faut peut-être féliciter la cellule de recrutement, parce que quand vous parlez des blessés systématiques en quart de finale, en huitième, en demi des dernières années en Ligue des Champions, on sait très bien de qui on parle. C'est Marco Verratti et c'est Neymar. Et on a remplacé ces joueurs par des joueurs qui, manifestement, ont une hygiène de vie qui ne pose pas problème, contrairement à celle des 2 joueurs suscités. Donc peut-être aussi que la cellule de recrutement a fait son travail en allant chercher des joueurs peut-être un peu moins talentueux ou tout aussi talentueux avec des potentiels similaires, mais en tout cas avec une hygiène de vie un petit peu différente. C'est peut-être pas simplement le staff médical. Hein.
Alors, je pourrais te répondre, mais ça serait... Donc, Dev sera souple.
Non, mais Timothée...
Il va t'expliquer.
Timothée, moi, effectivement, la saison indique qu'effectivement, les choses ont été bien faites.
Quand on parle de la cellule de recrutement, c'est Luis Campos, pas Jorge Mendes. Hein.
Voilà.
Quand on parle de l'hygiène de vie des joueurs... Oui. Il y a des joueurs comme Rabiot, comme Di Maria et d'autres joueurs qui ont été blessés à des moments
exactement.
Clés.
Et j'ajoute que dans les joueurs qui ont été recrutés, tu as recruté Dembélé qui demande aux Barcelonais s'ils l'ont vu une saison faire ce qu'il fait là, ils l'ont jamais vu. Asensio est un joueur qui a eu énormément de pépins par le passé. Ça a certainement même nuit à sa carrière. Skriniar, on voit que c'est difficile. Nuno Mendes, c'est compliqué aussi. Moi, je trouve qu'effectivement,
c'est sur les postes où tu pourrais avoir le moins de turnover.
Aussi,
tu vois.
Ouais. Mais je trouve que là, les choses sont bien faites. Certainement aussi que le turnover, là, pour le coup, aussi peut-être a donné de la fraîcheur, etc. Ils ont moins tiré sur la corde. Et puis, parfois, il y a la réussite aussi. Parfois, il y a la réussite. Qu'est-ce qui fait que parfois, t'as une saison où le Real Madrid, on peut pas dire que les mecs sont pas professionnels. Et ben, en quelques semaines, ils avaient perdu Courtois, Militao,
Alaba.
Voilà. Ouais. Et pour des longues durées. Parfois, t'as pas de chance, quoi. Bon, il se trouve qu'ils sont quand même en demi-finale.
Greg, sur la notion de triplé, vous êtes confiant, vous?
D'une part, ça a été fleuri par l'expérience. Moi, c'est pas les blessures, c'est l'impression de puissance physique et de forme. C'est ça qui m'a marqué contre le Barça. L'intensité dans les duels, la vitesse. Et très franchement, il y avait une différence là-dessus. Et je pense que cette année, elle est bonne à prendre. Il y a plus City. Il n'y a plus l'Inter, ben qui, voilà. Était, qui était quand même
une équipe
qui
en merde.
Une tannée.
Même l'Atlético Madrid.
Même l'Atlético, donc il reste quoi? Je ne pense pas qu'il soit inférieur au Bayern. La saison du Bayern, il faut quand même la regarder. Le Real, alors il y a une expérience, il y a une manière de gérer, mais ça ne me semble pas un Everest.
Non.
Et Dortmund, c'est une équipe qui a quelque chose, qui est animée par quelque chose.
Le piège est là.
Mais pour autant, le Paris Saint-Germain n'a aucune raison de penser que Dortmund lui est supérieur. Donc je pense que là, on parlait à un moment donné de Chelsea. Il y a une fenêtre qui s'ouvre.
Oui.
Et là, elle est ouverte. Ça ne veut pas dire qu'ils vont y aller, mais ça ne me semble pas. Si on avait parlé du City ou si on avait parlé de l'Inter, j'aurais pas dit ça.
Ouais.
Mais là, ils ne sont plus là.
Et
dans cette configuration, il y a une occasion qui est là. Il y a une occasion qui est apportée. C'est juste ça. Ça ne veut pas dire que les autres sont des tocards, mais l'occasion, elle est là parce qu'ils ne sont pas moins forts que les autres.
Ça ne veut pas dire non plus que c'est sûr.
Mais voilà.
Mais c'est juste que là, on a l'impression que ça s'est jamais.
Il y a juste.
Quasiment de la phase de poule où tu as le penalty qui tombe un peu de l'espace contre Newcastle. Et qui, à la 99e minute, pour une main, à mon avis, 3 fois sur 4, elle n'est pas sifflée. Elle est sifflée cette fois-là. Mais c'est bien que ça tourne aussi du côté de Paris.
Ouais, parfois,
parce que
oui.
Kimpembe, machin, tu vois, ils ont eu aussi leur lot. La remontada et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que depuis ce truc-là, t'es deuxième, tu tires la Real Sociedad, qui en plus est décimée. Je veux dire, dans quel monde ça arrive? Tu l'as pour toi. Barcelone, on a vu le scénario.
T'es content quand même que ce soit Barcelone. Et tu peux tomber contre Manchester City.
Voilà, exactement. T'étais dans la partie tableau bonne. Et le truc en plus, s'agence bien. Et ils font le nécessaire pour que ça s'agence bien.
Il y a des signes.
Et tu prends Dortmund en demi-finale. Avec qui t'as plutôt un bon passé.
Ils ont quelque chose. Juste Ludo, par rapport à ça, vous êtes sur le parfum. C'est-à-dire que vous le ressentez. Vous avez une intuition.
Ben non, on est sur les faits surtout.
Ouais.
Tu vas jouer.
Pour vous, c'est factuel.
Tu viens de jouer ton adversaire de Coupe de France à qui tu viens de filer 4-1. Je suis pas sûr que la défense de Lyon, elle change d'ici la finale de la Coupe de France. Donc je pense que tu es supérieur à l'Olympique Lyonnais, qui malgré tout essaye de se reconstruire comme il peut et c'est plutôt louable. Et je trouve qu'il faudra surveiller l'Olympique Lyonnais s'ils font quelques retouches la saison prochaine. En l'état, je pense que Paris gagnera la Coupe de France. Le championnat, c'est pour mercredi. Donc il reste quoi? La Champions. Ouais. La Champions. Dortmund, le piège, il est là. Parce que s'ils prennent ce match-là à la hauteur de ce qu'ils réclament, c'est une équipe qui est supérieure à Dortmund.
Le PSG, vous parlez.
Là, actuellement, je vous aurais dit il y a quelques mois en arrière, non. Actuellement, je trouve que c'est une équipe qui a beaucoup plus, qui offre beaucoup plus de possibilités. Vous avez la faculté de jouer en transition avec les trucs. Ramos, qui commence à... Chaque fois qu'il est là, bim, il plante. Donc, on voit une relation avec Hakimi. Vitinha qui commence à devenir un joueur formidable au milieu de terrain et qui commence à contrôler le tempo, le rythme. Je trouve que cette équipe
a un niveau de confiance qui augmente.
Mais je trouve que cette équipe, elle a des arguments pour gagner une demi-finale face à Dortmund. Puis après sur une finale.
Donc vous êtes plus de mon côté que de dire la certitude.
Mais personne n'est.
Eric, allez-y. Sinon je viens pas à l'émission.
Donc tu dis ils vont la gagner parce que sinon tu dis la même chose que moi. Ils peuvent la gagner comme ils peuvent se faire sortir. Alors mais t'as un blaire incroyable donc tu respires très loin et tu sens. Tu devrais travailler dans la parfumerie. Comme tu vas m'envoyer ton CV, je vais l'envoyer en bas à Cannes.
À Grasse,
voilà. Mais tout ça pour dire, moi je peux te dire aussi, le Blair, je sens 2013, Dortmund-Bayern en finale, personne ne l'avait vu. Ah oui.
2013.
Ah oui.
Mais c'est 2013. Oui, Eric, pardonnez-moi, je vois pas où vous voulez aller.
Les mecs qui sont là.
Mais sur ce qu'elle dégage cette équipe, Eric, il y a quand même des choses.
Je les entends. Moi, j'étais pour le côté offensif, mais j'ai entendu un petit truc. Ils viennent dire, ils prennent en Ligue des Champions. Si tu écoutes leur raisonnement, ils prennent trop d'occases, donc ils passeront pas.
Le Real, quand ils ont gagné Courtois et Benzema, ils ont concédé beaucoup.
J'entends ce qu'ils disent, je peux le retourner. Ils disent, cette équipe, elle est bien, mais elle prend trop de buts. Dernière chose. Ils mettent 4 buts aujourd'hui, et moi, j'ai été enthousiaste du PSG. Brest en a mis 3 à Lyon.
Oui.
Et mené 3. J'ai vu Brest-Monaco. Je ne sais pas comment cette équipe a pu mener 3 à Lyon. J'ai vu la deuxième mi-temps. Je suis désolé, je suis tombé peut-être sur la plus mauvaise du siècle de Brest. Ils ont perdu.
C'est pas la même équipe.
C'est pas pareil.
Il manquait Nesmilou.
Dortmund, ça te paraît insurmontable.
C'est injouable.
Dortmund.
Mais même moi.
Au pronostic. Toi qui aimes les pronostics.
Écoute bien.
Dortmund Paris, tu vas pronostiquer.
Non, mais écoute bien. Je te rejoins. La Real Sociedad, tout le monde disparaît. Et en quart, tout le monde disait les deux tocards, vu l'état, c'était Barça ou Dortmund. Je m'en rappelle.
C'est ça.
La chose que t'as, tu prends. Le Barça et Dortmund qui sort l'Atlético de Madrid. Jamais les mecs y pensaient. 2-1 à l'aller, ils vont perdre. Ils ont gagné. Donc, Dortmund, le PSG les a joués. ils les connaissent, ils sont mieux. J'ai vu le championnat d'Allemagne, j'ai regardé un
donc
peu.
Y a un chemin.
J'ai entendu un spécialiste, Liu, hein, bah qui parle.
Donc il y a un cheminement qui se crée.
Oui, mais Dortmund, ils ont un cheminement aussi dans leur tête.
Bien sûr,
avec tout le monde.
On a compris, Eric. Pas tous en même temps. Allez-y, Greg.
Un tout petit truc, c'est que cette supériorité physique.
Apprenez à avoir Romain.
Cette supériorité physique et athlétique qu'a le Paris Saint-Germain, je crois que contre Dortmund, ils ne l'auront pas forcément. Parce que c'est une équipe qui, athlétiquement et en vitesse, mais et
sauf
vraiment,
derrière.
Ouais,
sauf derrière.
Non, oui, oui, mais
on l'a vu aujourd'hui contre le Bayern et Leverkusen.
C'est une équipe qui est capable de monter très haut en régime, même s'il n'a pas les qualités techniques. Donc là, il y a quelque chose quand même qui se
trame. On aura l'occasion d'en reparler de cette fameuse Ligue des Champions tout au long de la semaine dans l'équipe de choc, l'équipe de Greg et l'équipe.
Pas sur des pompes à vélo.
Bah exactement, okay. Exactement. Romain, une déclaration de Marquinhos, le capitaine.
Oui, il s'est enhardi. Marquinhos, lui qui d'ailleurs vient de battre le record du nombre de matchs sous le maillot du Paris Saint-Germain. On va aller chercher le titre, la Coupe de France et la Ligue des Champions. Oh. On a besoin de vous à 100%. On sait que vous êtes là. On va se donner à fond pour accomplir nos objectifs. Marquinhos, chez nos confrères de Prime Video.
Pourquoi vous aimez pas Ludo?
Ouais, j'aime moins. Là. Que nous on le dise, c'est une chose. Je préfère qu'il le garde pour l'instant en interne.
C'est important de formaliser.
Oui, mais qu'ils se le verbalisent entre eux, ça a aucun intérêt de se prononcer là maintenant. Là, tu es dans une bonne phase. Va pas commencer à essayer de mettre des choses qui peuvent parasiter parce qu'on va dire que t'es pas assez humble, que si, que ça. Entre eux, ils le savent. Il y a un chemin là. Il y a un truc qui est en train de.
Mais ils ont cette attitude-là parce que.
Viens pas parader là.
J'ai vu les images sur Canal+. Tu as vu ce qu'ils ont fait
de... Il y a Pierre Sage qui arrive en conférence de presse. On va l'écouter.
Stonewall.
Je vais te dire. J'ai vu un truc sur le canal qui m'a dérangé.
Assume ce soir avoir raté ce challenge stratégique et prendre la défaite pour toi par rapport à la tactique que tu as mis en place.
C'est avant de parler de ça, je vais rappeler quand même qu'on prend deux buts d'entrée, ce qui change vraiment la donne dans notre manière d'aborder stratégiquement ce match. Malgré tout, en première mi-temps, on a été en difficulté pour gérer leur position large. Et c'est vrai que le changement de système à la mi-temps a été plutôt positif pour augmenter notre capacité à défendre. Je vous avoue qu'on aurait pu le faire à 3-1, mais je pensais vraiment rejoindre la mi-temps avec ce score-là. Et le fait d'avoir pris une attaque rapide juste avant la mi-temps a alourdi le score. L'idée, c'était de rebooster l'équipe avec justement un changement stratégique à la mi-temps dans notre organisation. Et ce quatrième but a scellé peut-être les choses. Mais on a quand même fait preuve de fierté en deuxième mi-temps. On a concédé, il me semble, aucune occasion. On s'en est créé plusieurs. Donc il y a des enseignements à tirer dans la manière de gérer cet aspect. Donc pour répondre à la question, oui, je pense que la première mi-temps, on a été en difficulté. Vu que ce sont mes choix, ils peuvent être questionnés ce soir. Mais en tout cas, dans la manière d'attaquer, je pense qu'on a quand même montré des choses. Et c'est le déséquilibre entre notre manière de défendre et notre manière d'attaquer qui a fait la lourdeur du score ce soir.
Bonsoir coach, Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. Vous avez eu des propos très élogieux envers Luis Enrique cette semaine, il y a quelques jours. Vous ne compreniez pas les critiques à son sujet. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir après ce match? Est-ce que c'est juste on se défend entre coachs ou alors est-ce que c'est une forme d'injustice par rapport au travail qui a été fait?
Alors c'est pas du corporatisme aigu, c'est simplement que... Il nous l'a encore démontré ce soir, son jeu est pensé. Il y a des choses qui ressortent dans sa manière d'attaquer. Ça s'est vu sur le premier but, ça s'est vu sur le centre aussi, sur le deuxième but. Donc ce sont des choses qui sont assez abouties. Et c'est une équipe qui nous a montré ce soir qu'elle était performante en attaque placée, qu'elle était performante en attaque rapide sur le quatrième but et qu'elle était aussi performante sur coup de pied arrêté. Donc je continue à tenir des propos élogieux sur ce que fait Luis Enrique. Et malheureusement, ce soir, on en a subi les conséquences. Et je vous avoue que j'étais aux premières loges et mon avis ne risque pas de changer au vu de ce que j'ai vu ce soir.
Réponse impeccable de Pierre Sage sur les qualités de Luis Enrique. Et parce qu'on a fait aussi beaucoup de conférences de presse en Ligue des Champions, il est très, très respecté, Luis Enrique, par tout le monde. C'est un coach, quoi qu'on en dise, qui a marqué beaucoup de points.
Il commence à être aussi respectable.
Franchement, il est brillant en conf.
Franchement, moi, j'ai de plus en plus de plaisir... non seulement à suivre ses équipes, mais aussi à le suivre en conférence de presse, parce que la première question, franchement, hein, vous la prenez pleine face comme ça sur c'est il faut pas s'énerver, et là il...
tu serais parti en toupie.
Non,
question du gros guillemets,
mais structure sa pensée en live là, mais de manière élégante.
Il n'est pas le seul. Hein,
élégante. Et... Non mais je... voilà, je... non mais il arrive sur le devant.
La,
non mais
il arrive sur le devant. Non, on le dit, mais par exemple,
il n'est pas là depuis longtemps.
Peut-être, mais Régis Lebris qui est 17e, c'est aussi brillant, c'est aussi honnête et c'est aussi profond.
Il ne faut pas non plus
le droit de dire que.
Oui, tout à fait.
On a le droit de féliciter des gens qui.
Oui, exactement, mais il ne faut pas non plus. Voilà, ça me semble un peu.
Il n'aime pas les compliments. Non. On va peut-être être obligé d'en faire parce qu'on va parler. On va parler de Bradley Barcola. Il a été étincelant face au FC Barcelone. Ce soir, il a une nouvelle fois été brillant. Est-ce que, selon vous, il a définitivement gagné sa place pour l'Euro ? Habillage à la parisienne. Ludo ?
Si j'étais Didier Deschamps, oui.
Est-ce que vous n'êtes
Mais je ne suis pas Didier Deschamps.
Dava Padou ?
Je ne vois pas comment il peut ne pas le prendre. Non.
D'accord. Greg ?
Il l'a gagné mardi.
Il l'a gagné mardi. Eric ?
Sûr ?
Est-ce que selon vous,
faut que je respire parce que c'est sûr. Parce que je peux dire
mais non.
Je pense qu'il va y aller.
D'accord. Oui. Voilà. Président.
Je suis pour et je suis comme Grégory, il l'a gagné mardi, même s'il a fait un match un peu moyen et truc. Là, bon,
mardi,
pour Didier Deschamps, je veux dire, bon.
Il y avait Guy Stéphane à Barcelone.
Il y avait Guy Stéphane à Barcelone, voilà, coup, ouais, ça peut aider.
La référence, ça reste quand même la Ligue des Champions, pas une équipe de Lyon qui, quoi qu'on dise, est quoi, 7-8e et tu mènes 2-0 au bout de 15 minutes, tout ça et tout. Mais bon, il confirme, il y a des trucs. Vraiment, c'est une bonne nouvelle, je trouve, pour notre sélectionneur. Ouais.
Dave, c'est le président qui en a parlé au début de l'intervention de la première thématique, on parlait de Bradley Barcola. Il s'est fait démolir pour son choix d'aller au Paris Saint-Germain.
Ouais.
Mais vraiment, démolir. Ouais. Ça a été violent pour
c'est
lui.
Il ne jouera pas. Ouais, tout à fait.
Honnêtement.
Démolir par les gens en général.
Non, mais oui.
Et la presse aussi, un petit peu.
Bah, un petit peu, il ne va pas jouer. Le montant de son transfert, c'est un joueur qui est cher. Il a une forme, que ce soit au stade ou à la télé, d'élégance, de fluidité qui est quand même déconcertante.
Ah ouais, pour le coup, c'est un... C'est un vrai joueur déséquilibrant, différent d'Ousmane Dembélé d'ailleurs. C'est pas les mêmes, c'est pas tout à fait le même registre.
Tu as pas pensé un peu à Gervinho ?
Oui, il a un côté comme ça, un peu ondoyant, comme ça. C'est vrai, il a un côté comme ça. Là où Dembélé est plus sur des poses d'appui hyper rapides, très très déroutantes. Non, moi, alors vous vous rendez compte là ? On est donc en mois d'avril, donc non seulement on se pose la question, mais presque on la répond.
Bah, tout le monde a dit oui là.
Voilà, exactement sur le fait que
même le nez d'Éric Blanc,
il sera à l'Euro et même Éric Blanc le dit malgré son voisin qui souffle.
le souffleur
on l'appelle. Non mais ce que je veux dire c'est que ce qui est fou c'est que quand il vient, il a 4-5 mois on va dire de Ligue 1.
Il doit partir en prêt en Suisse au mois de janvier.
Voilà,
c'est lui qui demande, mais Lyon ne
parce que Karl Toko est
parti
par Rennes.
Fantastique, c'est tout est dépendu d'une poubelle.
C'est-à-dire
c'est-à-dire que Barcola, on savait qu'il était bon. Les supporters lyonnais, nous, on le connaissait moyennement, quoi, je veux dire. Et les supporters poussaient pour qu'il soit titulaire, etc. et tout. Et lui, se plaignait un peu de son temps de jeu, Barcola, et avait demandé un prêt, c'est pour la Suisse, hein, ou quelque
exactement
chose comme ça, qui
Suisse.
A été refusé par Lyon, parce que Lyon se disait quand même, on a une pépite, enfin, ils ont été plus ou moins conscients, mais il lui donnait pas sa chance, puisqu'il y avait Toko et Cambi, et qu'on trouvait la sécurité, tu sais, c'était Laurent Blanc, l'entraîneur, plutôt, tu vois, des anciens, des gens un peu plus sûrs, comme ça, ou des choses comme ça. Et Toko et Cambi a été remplacé à dégoupiller et à taper dans la fameuse poubelle. Donc, je dis, tout s'est joué dans cette histoire de poubelle. Et là...
Il s'est cassé le pied ?
Il s'est pas cassé le pied, mais il s'est cassé net. Déjà qu'il n'avait pas la cote avec les supporters lyonnais, il s'est cassé net.
Tu pouvais plus vraiment le mettre. Et donc,
c'est pour la sécurité pas loin qu'il parte en Suisse.
Ouais, mais les histoires, c'est
il ne serait pas parti.
Non, mais je suis d'accord.
Non, mais c'est une belle histoire.
Il
n'y a pas de poubelle.
Non, mais il a 4 mois à Lyon, dans un club qui joue au milieu de tableau.
Il fait des belles choses quand même.
Il fait des belles choses, mais derrière, quand il est transféré au PSG, il assoit sur le banc 170 millions de transferts. Parce que Gonzalo Ramos et Randal Kolo Muani, ils le regardent jouer en Ligue des Champions.
Dave, on continuera ce débat passionnant.
Et il coûte 5 ans.
Faut quand même.
Faut les porter.
On continue de parler Bradley Barcola, pardon, juste après la pub. Et juste Didier, que vous prenez le temps de réfléchir. Mmh. Beaucoup de gens sur les réseaux sociaux demandent un teasing de votre part sur Rocky. Pensez-y pendant la pub. A tout de suite pour la suite de l'équipe de soir.
Tu as pas vu le documentaire sur Luis Fernandez, le long des quais qui court, qui monte les marches du Trocadéro et qui devant la Tour Eiffel. Tu as jamais vu ça?
Non, j'ai vu.
Ah, alors,
allez, à tout de suite pour la suite de l'équipe du soir. De retour pour la suite de l'équipe du soir sur la chaîne L'Équipe. Toujours cette musique, pourquoi? Parce qu'on est très fiers de vous présenter la saga Rocky à partir de demain. Rocky 1, 21h15 en direct sur la chaîne L'Équipe.
Adrien
en clair.
Gabriel.
Oui, Adrien. Gabriel, bien sûr. Adrien. Toujours en compagnie de Didier Roustan, de Ludovic Obraniak, de Dave Apadou, de Grégory Schneider.
Arrête, tu m'avais dit.
Et de Eric Blanc. Ça a beaucoup parlé de Rocky durant la pause. Simplement pour vous dire que demain, il y aura un invité exceptionnel.
Dites-nous tout.
Dans l'équipe de choc. Brahim Asloum, ancien grand boxeur français, bien évidemment, qui viendra, champion olympique, évidemment, Greg, qui viendra parler de Rocky. Et puis dans l'équipe du soir, il y aura un historien du cinéma pour nous parler de ce que représente la saga Rocky. C'est évidemment un succès phénoménal. Maintenant, on va retourner à nos affaires quotidiennes. C'est pas Rocky, c'est pas Sylvester Stallone, mais c'est pas si mal. Bradley Barcola, et c'est déjà pas si mal. Greg, par rapport aux qualités de Bradley Barcola, si on se projette sur l'Euro, c'est quelqu'un, et on l'a vu durant la saison avec le Paris Saint-Germain, en sortie de banc, il est très impactant. Ça aussi, pour Didier Deschamps, ça compte.
Je pense, même au-delà de ça, il faut qu'il prenne la température. Compte tenu de son importance à venir dans le foot français, il faut qu'il prenne la température d'une grande compétition. Tu ne peux pas le laisser sur le... Il faut qu'il regarde un peu comment ça se passe, qu'il prenne de l'expérience.
Il y a la blessure Kingsley Coman également.
Okay, en plus, qui lui dégage quand même, qui lui ouvre un... Mais je trouve que... Alors après, effectivement, il peut avoir un rôle en sortie de banc. Mais au-delà de ça, à un moment donné, tu dois lui mettre le label tricolore sur le front. C'est plus possible autrement, compte tenu de ce qu'il montre. C'est comme a dit... moi, je vais vous dire, très franchement, j'ai aucun souci. Quand il a signé, j'ai dit c'est n'importe quoi par rapport à ce qu'a dit le président. Il jouera pas, il aura pas de temps de jeu. Un joueur de son âge doit jouer.
Pourquoi avoir dit
voilà. En tout cas, moi, honnêtement, je le dis, ça me pose aucun problème de dire que je m'étais. Alors effectivement, Luis Enrique ayant ce côté où t'aimes bien lancer des jeunes, prendre un peu à contre-pied, ça l'a aidé. Mais il a brûlé tous les temps de passage. Il a brûlé tous les temps de passage puisque il a quand même. Enfin, pas loin de penser qu'il a gagné un petit peu le match. Mardi, pas tout seul, mais pas loin quand même. C'est lui qui a fait
ça. Ça a été le meilleur avec Dembélé.
Et ça, c'est quand même sidérant.
Mais je trouve que ça compte ce que vous dites sur le fait que c'est un bon entrant. C'est, je pense que pour Didier Deschamps, évidemment qu'il ne part pas titulaire. Là, on en est à se poser la question.
Ah bah non, y aller. Bien
non, mais,
sûr que non.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il a montré à plusieurs reprises que c'est un bon entrant, que c'est quelqu'un qui a un très bon état d'esprit, qui est capable en fait de s'adapter exactement à la situation que tu lui donnes. C'est-à-dire, si tu le fais jouer,
il prend le rôle qu'il
il va remplir le truc. S'il est sur le banc, il va aussi remplir son office. C'est-à-dire qu'il n'y a pas
parce que c'est un bon
pas des problèmes avec
mais c'est un bon titulaire à Barcelone.
Exactement.
Titulaire voilà. Ce soir.
On va juste reprendre la direction du Parc des Princes avant que Luis Enrique arrive en conférence de presse. Vous, vu du stade, Timothée, vous avez pensé quoi de Bradley Barcola?
Bah, il a été épatant. Je pense que tout le monde l'a vu aujourd'hui, tout le monde l'a vu cette semaine en Ligue des Champions. Il y a quand même quelque chose qui a été notable pour moi, c'est que alors qu'il n'a pas marqué dans cette rencontre, il a délivré une passe décisive, mais alors qu'il n'a pas marqué, au retour des vestiaires vers la 50e, spontanément, le public a scandé son nom longuement. Alors probablement pour le féliciter du match de cette semaine, probablement aussi pour allumer un peu les supporters lyonnais qui étaient présents dans leur parquage, mais le Barcola avec le Paris Saint-Germain, ça a mis un tout petit peu de temps, un temps d'adaptation qu'on qualifierait de normal, mais on ne peut pas dire que c'était soleil sur ciel bleu dès le début, dès son arrivée, que ça a tout été parfait. Aujourd'hui, clairement, la greffe a pris et Bradley Barcola est un élément important, pour ne pas dire majeur, du Paris Saint-Germain, ça c'est sûr.
C'est allé vite quand même, Ludo, pour Bradley Barcola, non?
De mon point de vue, la chenille est devenue papillon à vitesse grand V.
Oh là 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 là, là c'est...
Non, c'est que tu peux pas.
Ah, mais c'est beau, c'est. Non, mais c'est beau, non, c'est... Vous êtes un poète,
c'est...
Ludo.
C'est
vous avez le droit.
Soir, c'est pas c'est quand on voit du poème.
Bah,
c'est
pas comme cliché. Ça, quoi. Ouais. Il était là, et là, il est là.
Mais...
Ouais, ok.
Qu'est-ce qui vous bluffe tant chez lui?
Sa faculté à avoir rebondi quand on lui a sauté dessus. C'est-à-dire que le match de Newcastle a généré. Des critiques assez...
Les entrées sur les occasions ratées au Parc des Princes.
Voilà.
Mais Newcastle, il rentre 20 minutes,
c'est ça. C'est lui
ceux qui... que n'ont pas fait les attaquants pendant 70 minutes parce que Newcastle était très bas, etc. Je discute pas.
Tu
n'as vu que lui.
Il y en a qui pensent que c'était positif. Il y en a qui ont pensé que c'était négatif.
Archi positif. Alors c'est vrai que dans la finition,
j'ai fait partie moi dans l'agressivité, tu vois, ce côté un peu nonchalant qu'il a m'a beaucoup dérangé dans sa rentrée, de par sa jeunesse.
Ça, c'est une apparence.
De par sa jeunesse et son statut.
Il est comme ça.
Donc, moi, j'étais plutôt dans le camp de ceux qui critiquent après Newcastle.
Ouais.
Et honnêtement, quelques semaines après, Bam, il a enclenché la deuxième.
Et surtout qu'il se prend une réflexion indirecte de Mbappé après Newcastle.
Et
Mbappé qui cible le manque d'efficacité. Ouais. Or, on a tous en tête effectivement les deux trois occasions. Allez, assez nettes qu'il se procure.
Les autres attaquants, ils se les procurent pas.
Mais je veux dire quand t'es un pitchoun à ce moment-là qui se prend la réflexion même indirecte de son
boss,
leader, capitaine et le boss un peu de l'équipe. Il y en a qui rapetissent mais de 10 étages. Lui, pas du tout. Hein.
Oui, ça c'est toi.
Eric.
Oui, enfin Galtier pourrait dire c'est un ovni, c'est vrai, mais je vais plus loin. Quand tu vois cette équipe, et si elle gagne la Ligue des Champions, ce qui est faisable, c'est l'équipe de France. Ça veut dire que Barcola a poussé Mbappé peut-être dans l'axe, puisque Giroud est à Dembélé. Donc, je suis désolé, plein d'équipes se sont appuyées, le Grand Barça à une époque, sur certains joueurs gagnant la Ligue des Champions. S'il la gagne, s'il continue d'avancer comme ça, la vraie question, c'est que tu as l'équipe de France, les trois.
Ouais, bien sûr,
c'est tout.
T'as aucune raison d'être dissocié.
Donc, Giroud devient remplaçant. Coman, il est blessé, pas sûr d'y aller. Thuram sur le banc, Griezmann derrière.
Colomoigny, il donne.
Donc, t'as une équipe de rêve offensivement.
Pour une fois, vous avez eu du nez, Eric. Là, vous m'avez bluffé. Restez bien. Là, c'est grand. Restez bien avec nous pour la suite de l'équipe du soir. On va parler de l'Olympique de Marseille et puis vous verrez les images du choc entre le Real Madrid et le FC Barcelone. C'est les Galactiques, c'est le Real qui se sont imposés. A tout de suite. De retour pour la suite et fin de l'équipe du soir. Toujours cette merveilleuse musique Rocky dès demain en direct sur la chaîne L'Équipe, 21h15. Le premier numéro de Rocky, toute la saga à suivre sur notre antenne. Toujours en compagnie de Didier Roustan. Ah oui, il court, bien sûr.
5h du matin.
En forme.
Il tape contre le...
Vous avez un peu de punch, hein. Ludovic Obraniak est en notre compagnie. Dave Apadou également. Grégory Schneider et Eric Blanc. On va maintenant passer au note, si vous le voulez bien, on va parler d'un joueur qui a brillé ce soir. On va noter Gonçalo Ramos, portugais. Allez, habillage à l'américaine. 8 pour Ludovic Obraniak. Dave, il cherche encore. 8 pour Eric Blanc. 8 pour Dave Apadou. 7 pour Grégory Schneider. Et 7,5 pour Didier Roustan. Pourquoi 7, Greg ?
Oh, j'ai pas trouvé. Franchement, je l'ai trouvé bon, mais au-dessus.
Il a un doublé quand même, non ?
Ça commence à. Oui, mais c'est pas, il est parfaitement servi sur Asensio, il arrive lancé, c'est un bon finisseur, mais 8, il y aurait un côté exceptionnel que j'ai pas vu ce soir.
J'ai vu des 8, non exceptionnels, hein.
Non, mais je l'ai pas vu, si on parle de Barcola ce soir, parle d'autres joueurs, j'ai pas trouvé.
Non, mais sur la passe d'Asensio, par exemple, moi je trouve qu'il fait un vrai geste d'avancement.
Ah non, mais tout ce qui se passe dans la surface, de toute façon,
on en parlait. C'est pour ça qu'il est.
Tu mets pas
cadeau, le truc.
Non, mais tu mets pas 4 buts en 8e de finale de Coupe du Monde, comme ça, si t'es un Mickey, hein. Donc, on parle d'un. Mais j'ai pas trouvé qu'il dépassait, il y avait pas le 8, ça induirait une ampleur que j'ai pas forcément vue chez lui ce soir. Mais c'est un excellent joueur, c'est un joueur collectif, c'est un joueur, il y a rien à dire.
Moi j'hésitais avec le 7 parce que je pense qu'il y a eu mieux que lui, mais je trouve
d'où le 7,5.
Il y
a mieux que lui sur le match. Juste, vous allez pouvoir découvrir les notes des Parisiens et des Lyonnais dans le journal L'Équipe. Et vous pouvez aussi en exclusivité abonner le faire sur l'équipe.fr. On va maintenant noter Randal Kolo Muani. À vos ardoises.
Je ne l'ai pas vu.
La moyenne pour Ludo, c'est intéressant. 4 pour.
Je trouve que le commentaire est encore mieux que la note.
Pour Dave Apadou. 5 pour Grégory Schneider. 3 pour Eric Blanc. On viendra le voir. Et 4 pour Didier Roustan. Pourquoi la moyenne, Ludo ?
Parce que j'ai pas envie d'être trop sévère avec lui.
Oh non, nous l'a changé.
Mais là, c'est encore pire, ça.
Non, mais il essaie. Il a été dans les coups, c'est-à-dire que deux trois fois, il a les il se donne, il a les situations, il a ça se joue à pas grand chose quoi. C'est un 5 d'encouragement.
Tu te rends compte sur quoi tu lui mets la moyenne ? Il a essayé.
Il est pas loin.
Et
c'est un 5 d'encouragement.
Thibaut Martinez, voilà. 9.
Je lui mets 10.
Eric, pourquoi 3 ?
Bah, je sais pas, je l'ai pas vu aussi transparent qu'une bulle de savon. c'est un international. Il a fait un gauche droite dans l'axe, ça passe à côté. Il a la chance de jouer, il en profite pas quoi. Les autres sont bons à côté.
Ouais.
Hein, Ramos aussi, plante de but. Puis c'est pas ça. Moi, j'ai rien contre lui. Je le vois jouer.
Heureusement d'ailleurs.
92 millions.
l'avant-centre de l'équipe de France. Non, j'entends, moi tu vois, je connais rien au football. J'entends Deschamps. J'entends Deschamps et tous les journalistes et les suiveurs et le maintien et le maintien et le maintien. Moi, mais c'est extraordinaire. Il lui fait le carrelage dans sa cuisine. et alors il le maintient, il le maintient. Donc moi, je connais rien. J'ai rien contre lui. J'espère qu'il se refera demain. Il est sympa. Mais il est dans le trou.
Voilà. Il est dans le trou. Greg.
Et moralement, il doit se poser 100 000 questions.
Le 5, c'est je lui lance une corde. Dans le fils. Je lance une corde.
Tu gagnes compte, tu gagnes pas. Tu font pas le match qu'ils ont fait ce soir à 10. Tu le fais à 11. Donc, c'est quand même une pièce du puzzle. Il a énormément couru. Il a notamment libéré un espace pour Barcola sur la passe. Pour Asensio, sur la passe décisive. Donc, il a énormément couru. C'est vrai qu'il a du mal d'être dans le trafic. C'est vrai que tu sens que c'est un type qui a. Mais très franchement, il fait le match qu'il peut faire.
Giovanni aussi, il court.
Ah oui, je
cours. Alors, tu vois, et il courra moins cher.
J'espère que c'est le même prix si ça vous dérange pas.
Ça fait 5 maintenant.
Je suis désolé, on doit passer. Dev, je vois que vous êtes agacé, mais on n'a pas le temps. Romain, on va refoutrer. Romain, on revoit tout de suite les images de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Lyon.
Même on ne verra pas Randal Kolo Muani courir malheureusement sur les images. En tout cas, on va voir les buts quand même de cette belle victoire parisienne 4-1 ce soir avec le premier but sur ce petit centre d'Asensio qui est dévié par Nemanja Matic involontairement. Le Serbe, ça fait 1-0 pour le PSG au bout de 3 minutes et même 2-0 au bout de 6 minutes avec ce but de Beraldo sur corner. Centre d'Hakimi, tête de Gonçalo Ramos, ça fait 3-0 à la demi-heure de jeu.
Deuxième poteau.
L'OL va revenir à 3-1 avec cette frappe de Nouama au premier poteau.
C'est là où il est là.
Et le but voilà, du 4-1 signé Gonçalo Ramos, servi par Asensio. Le PSG donc leader de Ligue 1 et le PSG qui pourrait être champion.
Et le mec, il a le meilleur strapontin du match. Il est toujours en auditeur libre.
C'était selon Vincent Duluc, c'était quelque chose que Bernard Lacombe disait d'un attaquant qui avait été médiocre. Il a vu un bon match. On conclura sur cette belle citation de Monsieur Lacombe. On va écouter Marquinhos qui était présent en zone mixte.
Il arrive. On enchaîne deux très bonnes prestations, très bon match, très bon résultat. Je pense qu'il faut continuer dans cette lancée-là. On a beaucoup parlé dans le vestiaire, surtout aujourd'hui, pendant la semaine, qu'il ne faut rien lâcher maintenant. C'est le moment important de la saison qu'il est arrivé, moment décisif. Mais aussi, ça met en valeur la philosophie de coach. Je pense que tout le monde est prêt, tout le monde est... quand il rencontre sur le terrain, je pense qu'avec les entraînements qu'il fait, avec l'attention qu'il donne pour tout le monde, avec les entraînements tactiques qu'il fait, je pense que tout le monde sait qu'on doit faire sur le terrain. Et après, peu importe la personne et le joueur qui va être sur le terrain, on va essayer surtout de maintenir le niveau.
Voilà les réactions de Marquinhos que Grégory Schneider a apprécié. On va maintenant passer à l'Olympique de Marseille qui a affronté Toulouse. Aujourd'hui avec vous, Romain, les images de la rencontre.
Et les Marseillais ont pris un point dans les arrêts de jeu face au TFC. Il s'est passé beaucoup de choses encore une fois dans ce match. Ce sont d'ailleurs les Olympiens qui ont ouvert le score sur ce coup de tête de Jean Onana. 1-0 à la 38e minute. Toulouse qui va égaliser dans les arrêts de jeu de la première période la tête de Nicolas Hyssen sur le corner de Siro. Avec peut-être une sortie ratée de Paul Lopez. Toulouse qui passe devant grâce à un but de Gbo. Et regardez ce bijou de Faris Moumbagna, l'attaquant marseillais. Le retourné acrobatique du pied gauche. Ça nous a un petit peu surpris, mais en tout cas, c'est absolument magnifique. Et donc l'OM qui a pris un point. L'OM qui est 9e à 6 points de la 6e place qualificative pour l'Europe, même si les Marseillais ont un match de moins et Toulouse est 11e.
Moi, je pense qu'on peut dire qu'elle est ratée, la sortie de Paul Lopez. Il a été très bon cette semaine.
Ce n'est pas à moi de le dire, j'ouvre le débat.
Bien sûr, vous présentez en même temps que vous faites les images. Vous êtes magnifique, Romain. On va poser cette question toute simple. Est-ce que c'est un nul décevant ou encourageant? À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Duel dans l'équipe du soir. Jingle. Alors, il m'a répondu encourageant, c'est Grégory Schneider. Il m'a répondu décevant, c'est Dev Apadou. Greg, c'est encourageant. Pourquoi? Vous avez 30 secondes.
Pourquoi? Parce qu'ils sont sur la jante. On le sent. On voit des joueurs comme Correa ou Luis Enrique qui sont même plus des joueurs de bout de banc, qui sont des mecs qui normalement sont costards dans les tribunes et qui sont obligés de faire jouer et à donner un temps de jeu énorme parce qu'il n'y a plus assez de joueurs valides ou de joueurs qualifiés pour telle ou telle compétition. On sent qu'ils sont au bout du bout. Et pourtant, il reste un esprit, il reste une tenue, ils sont allés chercher le nul. Ça n'a pas d'impact pour le championnat, mais ça dit que cette équipe est tenue par quelque chose, est tenue par une mentalité. Et moi, c'est ça que je veux mettre en avant parce qu'il y a les demi-finales à venir et que ça reste quelque chose.
Merci beaucoup, Greg. Dev.
Moi, j'ai trouvé ça décevant parce que les joueurs que tu cites, Greg, sont des joueurs professionnels, grassement payés, je pense, notamment à l'Argentin Correa. Donc, faut pas me faire dire que là, ils sont allés prendre à Prusès chauffeur-livreur, quoi. Je veux dire, c'est des joueurs de foot. Ils ont un effectif. Bien sûr, là, en ce moment, il est diminué. Mais face à ce Toulouse-là, que j'ai trouvé d'une faiblesse insigne, je trouve que c'est deux points de perdu parce qu'il y a quand même cette course à l'Europe. Ils ne peuvent pas tout miser sur une hypothétique, très hypothétique victoire en Ligue Europa. Donc pour moi, c'est décevant d'avoir laissé des points contre cette équipe-là.
Merci beaucoup. Si vous pensez que ce nul est décevant pour l'Olympique de Marseille, c'est pour Dave Apadou qu'il faut voter. Si vous êtes opposé à cette idée, c'est Grégory Schneider. Pour vous, c'est encourageant. Vous allez sur l'équipe Connect. L'arbitrage du président à vie de l'équipe du soir.
Alors, encourageant, le mot est peut-être un peu fort, puisque finalement, ils perdent deux points, mais je rejoins Grégory, quoi. Tu as joué jeudi, il y a une tension nerveuse.
Prolongation, pénaux.
En première mi-temps, ils doivent marquer plus tôt, et ils sont pas mal, le tir de Aubameyang sur le poteau, etc. Et en deuxième période, tu vois que ça pioche, Balerdi est en retard sur la frappe pour le deux, parce qu'ils en peuvent plus. Et finalement, à la 96e minute, tu vois, en plus se retourner, je croyais pas capable de réaliser.
Aller chercher ce
comme ça, aller chercher, tu vois, et continuer. Pour l'état d'esprit et pour tout ce que tu as expliqué, je suis plutôt.
Toi, Team Greg.
Ouais.
Ludo, votre sentiment, c'est vrai que la notion de. En plus, il y a les blessés, on parle beaucoup du fait que Marseille est diminué, fatigué, il y a une cascade de blessures, ils sont quand même. On peut les saluer tout de même.
Moi, je suis plutôt sur la même ligne aussi. Je trouve que cette équipe, elle a les ailes qui touchent la piste et ça se voit fortement. Jean-Luc Gasset disait que même à.
Ça se dit dans les vestiaires, ça, les ailes qui touchent la piste? Non, c'est de toi.
Oui, non.
T'as jamais entendu? Non, je ne sais pas.
Raison de plus pour l'apprécier.
On peut se faire un petit coup. Même Jean-Luc Gasset disait juste avant la collation, je ne sais même pas encore. Qui je vais aligner.
Comment, oui, bien sûr.
Comment, j'ai pas mon équipe encore. Ce qui est quand même assez fou quand tu veux, t'es l'Olympique de Marseille quand même. Donc, après, Toulouse,
c'est. Louis Enrique, parfois, à la collation, il l'a pas non plus. Enfin,
les joueurs, ils ont deux heures avant. Hein.
Donc, Toulouse, faut pas oublier, c'est l'équipe qui, sur les derniers mois, bat Lille, bat Nice, bat Rennes.
Et embête Benfica.
Donc, c'est une équipe qui, même sur ce match-là, n'est pas. C'est pas le Brésil. Hein.
Non, mais ça se coupe.
Mais c'est une équipe qui,
ça
quand même, t'envoie une certaine forme de challenge. Ouais. Et je trouve que l'OM, d'avoir mené au score déjà, alors qu'ils étaient brouillons et malmenés, et de s'accrocher encore une fois jusqu'à la fin.
La cagade, elle est juste avant la mi-temps. Hum. Pas de vol. Bon, ouais. La cagade, ok. Mais
d'ailleurs, elle est côté soleil.
Non, le soleil, il était de face.
Ouais.
Et le corner, il est là.
Cagade, en plus, de la part d'un des joueurs les plus fiables, donc ça n'aide pas.
Oui, ça n'aide pas. Et à 2-1, je pensais franchement.
Il lâche pas là, tu vois. Benfica, il va au bout du bout contre Benfica. Il est encore là et tout.
Ouais.
On peut pas leur reprocher grand chose. Tu sens qu'ils sont.
Ils font avec les moyens.
Ils sont limités et ils vont à fond, ils vont à 2000%. Ils savent pas où ils vont finir, mais ils s'arrachent. Et moi, ça me touche.
Mais l'avion, il peut. Non, parce que c'est dangereux.
Il peut ou non.
Non, mais par contre, il y a un truc.
C'est comme Eric, tu sais pas. T'as pas de certitude.
C'est au pif. Je rends la parole.
Allez-y.
Non, parce que je cherche Toulouse, là, dans ce top 10. Je les vois pas.
Oui.
Ne sois pas mauvais perdant.
J'ai l'impression qu'ils ont affronté le Bayern.
Tu es KO. Tu es comme Apollo Fall.
Moi, je vais laisser la place au souffleur. Vas-y, a gagné. Nico,
Rocky a gagné.
C'est pas Apollo Fall. Apollo Fall, c'est le basketteur.
Ah oui, c'est
Apollo Creed. Oh là. Il y a rien qui va.
Apollo Fall.
Sur les noms, c'est pas
trop de trucs. Gabriel, Apollo Fall que je salue d'ailleurs, s'il nous écoute. Parce qu'Apollo Creed, peu cher, il nous a quitté il y a pas longtemps.
Eh oui, malheureusement. Oui, formidable acteur.
Formidable acteur.
Eric, par rapport à cette équipe olympienne, bon, c'est vrai que le championnat a l'impression qu'ils jouent, même s'ils sont pas si loin que ça des places européennes, on est d'accord qu'ils sont forcément omnibilés par la Coupe d'Europe.
Ben, s'ils la gagnent, ils vont directement en Ligue des Champions.
Ah ouais.
Et c'est le chemin le plus court.
Qu'est-ce que votre nez vous dit là-dessus?
Moi, j'ai pas de nez. Mais, mais ils jouent l'Atalanta.
Tu vas pas à grâce.
Hein. Une équipe qui sort Liverpool, faut s'en méfier, mais je pense qu'il vaut mieux la jouer que Liverpool.
Ça, c'est sûr.
Et en finale. Voilà, on rigole, on se foutait de leur gueule, mais je suis content pour l'OM. Ils sont là. Et juste une chose, 49e et 56, Aubameyang a une occasion pour mener 2-1.
Ouais.
sur une passe en profondeur, elle passe à ça. Vertu, il a un compte favorable, mais il croise tôt, son tir.
C'est ça,
il parce que Didier a vu la première mi-temps, mais moi j'ai vu la deuxième.
Ah, mais c'est bien, vous complétez. Ah,
bah,
vous
on va pas voir tout le match.
Ah, mais bien sûr, mais
vous. Je dirais que tu vois la deuxième, moi je vois la première.
Et donc, c'est bon, après, Toulouse a repris le sens
on de la. On n'est pas Mazo non plus.
Ils ont une ou deux occasions. Mais c'est bien, non, moi je sais, encourageant.
Non, bien sûr.
C'est un chaos terrible pour Dev.
C'est terrible. C'est dans les cordes.
C'est terrible.
T'es dans les
cordes. Allez, puisque vous avez parlé de l'Atalanta Bergame, et ils jouaient aujourd'hui les futurs adversaires de l'Olympique de Marseille. Les images avec vous, Romain.
Ils ont gagné les Lombards soir, l'Atalanta Bergame. Une victoire 2-1 sur la pelouse de Monza, avec un premier but de Charles de Ketteler à la 44e minute et un deuxième but d'El Bilal Touré, l'ancien Rémois. Et à l'arrivée, ça fait une victoire 2-1. Donc pour l'Atalanta, qui est 5e en Serie A, enfin non, pardon, qui est 6e, mais qui est en course toujours pour la Ligue des Champions, en sachant que les 5 premières places en Italie seront qualifiées.
Il va falloir qu'ils se refassent la cerise quand même, hein, parce que cette équipe, elle envoie physiquement.
Ouais, elle envoie victoire de Grégory et Schneider. Oui, c'est encourageant.
Bien sûr.
Bravo, bravo.
En fait, ce serait plus large que ça.
Oui, moi aussi.
Un peu déçu du score de Grégory Schneider. Allez, Romain, c'est votre moment, le journal du Hard, le Minuit Info. Les images qui vont faire mal au cœur d'Éric Blanc, la défaite du FC Barcelone dans le Classico face au Real Madrid.
Le plus grand match du monde, toujours entre le Real Madrid et le FC Barcelone, et le Real pouvait faire un grand pas vers le titre, et ils l'ont fait, les Madrilènes, malgré l'ouverture du score du Barça, une tête de Christensen sur corner, égalisation de Vinicius sur pénalty. Et là, c'est le fait polémique du match, avec ce but, en tout cas ce peut-être but refusé à Lamine Yamal. En tout cas, il n'a pas été accordé. Le Barça qui va quand même passer devant 2-1 grâce à Fermín López, égalisation de Lucas Vázquez de partout. Et dans les arrêts de jeu, le but de Jude Bellingham qui va donner la victoire au Real Madrid. 3-2 dans ce superbe classico. Et donc désormais, le Real Madrid compte 11 points d'avance sur le Barça en tête de la Liga. Il reste 6 journées.
Éric, votre réaction à chaud à cette défaite de Vaublo Grano?
Braquage de l'arbitre.
C'est-à-dire braquage de l'arbitre.
Bah, c'est un scandale.
Ah bon?
T'as Vázquez, il n'y a pas péno. Tu peux revoir 25 000 fois.
Il on ne pourra traîner, pas le revoir.
Il laisse traîner sa chaussure. Le VAR, je ne sais pas. Le but de Yamal, il n'y a pas la goal line. Ils ont pas assez d'argent. Je pense qu'il est rentré. Et Fermín López se fait complètement dézinguer dans la surface par mon ami Rudiger. C'est Franck Nitti, il descend tout le monde, il a jamais de carton, jamais de pénalty, le mec il traverse. Non mais c'est fabuleux, il doit leur faire peur avec sa barbe, j'en sais rien.
Franck Nitti n'avait pas de barbe.
Nitti
n'avait pas de barbe.
Il était glace.
Mais il finit mal quand même.
Oui.
Mais c'est vrai qu'il passe souvent entre
il
les.
Il tombe d'un septième étage avec moi. Mais bon, c'est dans un autre film. Mais bon, tout ça pour dire que. Tu perds, mais franchement, ils vont en parler. Non,
mais
c'est
Eric,
pas possible.
On refait le débat encore.
C'est l'arbitrage sur ce match.
Non, mais l'arbitrage, c'est quand même souvent avec le Real Madrid, non?
Bah, j'en sais rien. On en parle depuis 1000 ans. Non, j'étais pané qu'on parlait de l'arbitrage. Mais là, ce soir, je sais pas les journaux espagnols, c'est pas bien grave. Vous voyez, les supporters barcelonais là-bas, ils vont l'avoir amer, mais on a tout perdu.
Vous avez fait le même cirque après le Paris Saint-Germain.
On va être deuxième, on a tout perdu, on a fait une saison de transition. Faut trouver un autre coach après Xavi, c'est ça les vraies questions. Et se remettre financièrement en ordre de marche. Dans un an, on va être fort. Fin 2025, on revient au Camp Nou, on va pouvoir acheter 2-3 joueurs qu'aujourd'hui, on n'est même pas capable d'y aller. Alors, on se fait que prêter des joueurs. Sauf, pour terminer, c'est que, je le dis...
Il faut quand même
un moment donné. Le Paris Saint-Germain, pour moi, j'ai aucune certitude. Mais s'il y a 1-0, ils sont à 11 contre 11.
Non, mais Eric, on ne revient pas sur le PSG.
Juste signaler qu'ils ont encore, à ce jour, au moment où on parle, 500 millions de dettes. Donc on va arrêter de dire que l'année prochaine c'est la rue Michel. T'as 500 millions de dettes.
2025.
Ouais, d'accord. Donc
2025.
Donc t'effaces en un an 500 millions de dettes.
On va trouver.
Ouais,
voilà.
Notez bien que dans le Super Classico, Boca Junior a remporté au Monumental 3-2 devant River en Coupe d'Argentine.
Dev, par rapport au scandale de l'arbitrage ce soir qu'évoque Éric Blanc, vous avez le même sentiment?
Moi, je suis un peu sur l'arbitre, par contre.
Je trouve qu'en fait, Lucas Vázquez, il joue bien le coup, en fait. C'est-à-dire que comme c'est Christensen qui tend la jambe,
Non, Koubarsi.
Bon, moi, je crois que c'est Christensen. Ouais. Mais bref, peu importe. Je trouve qu'en fait, il s'expose à ce que l'autre vienne le toucher. Et effectivement,
Si tu as la VAR, pour l'arbitre de choc.
Ils ont la VAR.
Oui, si tu as la VAR. Ils n'ont pas la goal technology, passons. Mais ils ont la VAR.
Oui.
Évidemment que tu vois que Lucas Vázquez
il va chercher le contact.
Non seulement il va chercher le contact, mais le ballon est de l'autre côté et la jambe est là. Bah, et lui, il est même obligé de faire un temps d'arrêt pour toucher la jambe. Donc même un enfant de 12 ans qui comprend à peu près, il siffle pas penalty et il donne avertissement à Lucas Vázquez. Si toi, tu te fais piéger, retourne aux fondamentaux.
Non, il s'expose parce que c'est pas un contact photo. Je trouve pas qu'on soit sur un vol caractérisé. Par contre, le vrai scandale, c'est que là, cette ligue qui est surexposée, qui est quand même surmédiatisée, n'est pas la goal line technologie et donc soit là en train de faire des mouvements de caméra pour savoir si c'est ça, c'est pas sérieux.
Ouais.
Non mais je veux dire là, en fait, il est là pour moi le vrai scandale, indépendamment de Real ou Barça. Pour moi, c'est scandaleux qu'aujourd'hui.
Je suis pas sûr qu'il y avait but quand même. Je suis pas sûr qu'il y a quelque
chose. Ça sera pas.
Oui, mais après le Barça marque. Enfin, ils le mettent ce deuxième but quand même. Donc, je trouve que ça, c'est. Par contre, sur le péno, ouais. Là, je suis sur mon voisin.
Il n'y a pas péno.
Si.
Ah bon. Donc ça fait deux. Ouais. Un pour le. Bon. Donc là, mais c'est dit. Barça menait 3-1. Il serait jamais revenu. Mais c'est pas grave. On s'en fout. Pas la fin du monde.
On s'en fout.
Mais oui, ils ont 11 points. Ils méritent de la gagner. La Liga, ils méritent de la gagner. Le Real. Il y a pas de souci.
Écoutez, si. Juste,
il la mérite vrai, cette année.
Sur le niveau de la rencontre, parce que Romain disait c'est encore le plus grand match du monde sur l'intensité. Non, c'est Ludo, là-dessus.
Non.
Il y a eu un bon classico. Honnêtement, on a retrouvé tous les ingrédients avec du suspense, des problèmes d'arbitrage, un peu de baston, retournement de situation, le but de Bellingham à la dernière minute. Mais il manquera toujours Cristiano d'un côté, Messi de l'autre. Ça, on l'a pas compensé. Ça mettra des années à revenir.
Moi, je trouve que c'est le niveau des équipes.
Cette magie-là, elle n'existe plus.
Elle n'existe plus.
Oui, moi, je trouve que c'est le niveau des équipes aussi qui a baissé, indépendamment du fait qu'il manque effectivement ces deux stars. Parce qu'à l'époque de Messi, quand c'est le Barça de Guardiola, il y a Messi, mais il est dans la plus belle équipe du monde. Et Cristiano, il est dans l'autre plus belle équipe du monde. Moi, je trouve que c'est le niveau des deux équipes qui a baissé. Et aujourd'hui, le plus grand match du monde... Moi, si demain, c'était en même
City
temps,
il y a
City-Liverpool et il y a Real-Barça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, vont plutôt regarder City-Liverpool,
c'est
je pense.
C'est le plus grand championnat du monde en Angleterre.
Ouais. Aussi, aujourd'hui. Greg, je vous ai coupé, allez-y, vous avez le temps. Non, c'était ça. Ceux qui ont vu City-Liverpool il y a deux mois, ils ne l'oublieront pas avant longtemps. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu là. Et, sans polémique.
Sans méchanceté aucune. Si tu vois, si t'as vu, moi je l'ai vu.
Et en même temps, City-Arsenal était décevant.
City-Arsenal 0-0, une purge.
C'était décevant. On va retourner à de belle vieille Ligue 1, puisqu'il y a des bons matchs dans notre championnat de France. Les images de la victoire de l'AS Monaco face à Brest, Romain.
C'était l'un des chocs de cette fin de saison entre le deuxième Brest et Monaco 3. Les deux prétendants à la Ligue des Champions et Monaco a signé une excellente opération en s'imposant 2-0 à Francis Leblé. Magnifique frappe enroulée de Denis Zakaria avant un joli mouvement à 3 conclu par Minamino à la 48e minute. Donc Monaco s'impose 2-0. Monaco passe devant Brest et est désormais deuxième avec 2 points d'avance. Et Monaco a aussi un match en moins. Et Monaco aura un autre match très important d'ailleurs contre Lille. Ce sera mercredi.
Puisqu'on parle de Lille, il y avait un match face à Strasbourg aujourd'hui.
Ouais, les Lillois se sont très bien remis la tête à l'endroit après leur élimination face à Aston Villa en Ligue Europa Conférence. Une victoire 1-0 grâce au 17e but de la saison de Jonathan David, 1-0, c'est juste ce qu'il fallait aux Lillois qui ont eux aussi signé une très belle opération. Ils sont désormais quatrième à un point de Brest, le troisième, et eux aussi ont un match de moins, donc encore une fois contre Monaco mercredi.
Ludo, cette course au podium, elle est fantastique.
Elle est très intéressante. Je regrette simplement que Brest ait été diminué sur ce match important contre Monaco en réintégrant pas l'Esmelou.
Oui, là on parle de la commission.
La commission disciplinaire.
Qui méritait pas, complètement à côté de leur pompe, je comprends pas.
C'est le carton rouge face à Lyon.
Ça nous gâche encore un moment, si ce n'est que Romain sera content parce que Monaco l'a emporté. Donc quoi, vous voulez me demander, c'est quoi, vous me demandez le classement?
Non, sur la course au podium, c'est fascinant ce qui se passe.
Alors c'est aussi fascinant en haut qu'en bas. Parce qu'en bas aussi,
on va en parler juste après.
Ça va se taper rude.
Par rapport à cette équipe de Brest, Dave, c'est vrai qu'on a tous redouté le moment où ça allait un petit peu moins bien, et c'est logique parce que c'est une équipe qui était un peu en sur-régime. La défaite face à Lyon, ils la payent aujourd'hui, vous pensez?
En fait, ils ont passé quand même leur semaine sur l'histoire Lesmelou, parce qu'entre la suspension, l'attente, la décision qui leur a pas été favorable, enfin, qui a pas réhabilité Lesmelou, comme ça aurait dû être le cas, c'est vrai. Et derrière, le commentaire de cette deuxième décision, je me demande s'ils ont pas laissé de l'influx, parce que je pense que c'est un de leurs plus mauvais matchs depuis des mois. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Parce que le match contre Lyon, il est ce qu'il est, mais honnêtement, ils ont fait un énorme match.
Ils ont fait un très bon match. Mais je pense qu'en se victimisant à l'extrême, en partant dans les éternels Brest dérange, machin, j'ai entendu toujours ça, l'OM dérange, machin dérange. Il faut que les Brestois comprennent une bonne fois pour toutes que qu'ils aient un petit stade, qu'ils aient machin truc, on adore dans ce pays, et moi le premier, les petits poussés, les belles histoires, et tout le monde est ravi si Brest fait la Ligue des Champions, et tout le monde n'arrête pas de leur tresser des louanges et tout, qui sont justifiés. Non. Alors les trucs de chaque fois se victimiser, excuse-moi, à 3-1, c'est pas le truc de Lesmelou, c'est pas l'arbitre, déjà, c'est pas machin. Ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et bien heureux, parce que tu dis Lesmelou, bien heureux que le gardien de but arrête de me dire non, de souffler d'un côté, de me dire non, bien heureux que le gardien de but n'est pas un rouge. Le gardien de but n'est pas un rouge.
Ce que je veux dire, c'est que.
Et avoir 2-3 matchs de suspension
sur la casette.
Mais bien sûr. Et il n'a pas de rouge.
Tu leur mets,
allez-y. Donc il faut arrêter.
Non, mais tu leur mets sur le dos quelque chose dont ils ne sont pas totalement responsables parce que les médias ont aussi, de leur côté, à la vue du match, sans les écouter eux, dit que ce qui s'était passé, c'était pas normal. Ils se sont fait massacrer tout le match. Moi, j'ai vu le match, je l'ai dit.
Et ben moi aussi, j'ai vu le match. Et je trouve pas qu'ils se sont fait massacrer tout le match. Et je trouve que quand ils sont à 3-1, et ben c'est à eux de tenir le match. Et c'est pas le cas. Et quoi que ce soit, dans des saisons ou des choses comme ça, et bien, il y a des équipes qui, à certains moments, peuvent être victimes de ceci, de cela. Lyon a été victime aussi. Quand Lyon a un pénalty qui est pas sifflé contre Le Havre et que Le Havre marque derrière, et je peux t'en citer quelques-unes de Lyon parce que ça fait un bout de temps que Lyon, avec l'arbitrage, ils ont des soucis. Ces derniers temps, peut-être un peu moins, mais si tu te victimises et si tu tombes dans le truc Brest dérange, Brest ceci, Brest cela, et que tu passes ton temps à chouiner,
qu'ils ont
je suis désolé.
Non, c'est vrai, là où je suis le président, le statut de martyr leur va pas du tout. Ça, c'est très clair.
Voilà,
on va passer à la course au maintien avec les images du Havre face à Metz.
C'est bon, on a compris. Je voulais que ça s'arrête.
Mais c'est
pour ça que j'ai fait ça. C'est fini.
Oui, mais il faut le dire aussi.
Ah oui, mais moi,
on va pas.
Non, mettez pas une pièce dans la machine, Eric. On était passé. Allez.
Mets-toi à la place de l'arbitre.
Il est redoutable.
Machin dérange. Faut arrêter les délires.
Allez,
c'est trop facile. Importantissime entre le Havre et Metz dans la course au maintien. Celui-là, il valait très très cher et les Messins sont allés gagner 1-0 au Havre avec le seul but du match inscrit par Miko Tadze. Il méritera une statue si les Lorrains se maintiennent. En tout cas, Metz n'est plus relégable. Les Messins sont désormais 15e avec un point d'avance sur le Havre qui est désormais barragiste.
Miko Tadze. Il nous a mis un but dans son doublé la semaine dernière.
Il passe à Lens.
Ramène dans la surface de réparation.
Magnifique.
Non, c'est un joueur. Hein.
Je vais parler à un ancien Messin.
Alors,
quand même.
Metz, je ne m'emballe pas.
Metz,
ne venez pas me chercher.
Bah si, Ludo, allez-y.
Non, il y a des matchs costauds là. Il y a Lille et Paris qui arrivent derrière, donc il faut.
Juste un petit.
Il faut tamiser un peu.
Non, mais c'est spectaculaire quand même.
Non, mais Miko Tadze, il est hors norme. Et d'ailleurs, sa place, elle est ni à l'Ajax, ni à Metz. Elle est peut-être dans un club un peu plus huppé parce que ce garçon fait depuis. 2 ans maintenant, c'était déjà le cas pour la remontée. Et cette année, il confirme en Ligue 1, en étant tout seul à Metz, en jouant bloc bas, ce qu'il fait tout seul. Oui, la statue, il la mérite si Metz se maintient. Sans problème, je la finance.
Ah, vous la financez, magnifique. Il sort les billets. Allez, on enchaîne, Romain, avec des images du futur adversaire du Paris Saint-Germain, le Borussia Dortmund.
Une statuette.
Oui, le Borussia Dortmund qui a fait match nul aujourd'hui contre le Bayer Leverkusen. Mais ce qu'on va retenir, c'est la bonne étoile au-dessus du Bayer Leverkusen. Regardez, Dortmund mène 1-0 à la 81e minute avec ce but de Füllkrug. On rappelle que le Bayer Leverkusen est toujours invaincu cette saison en championnat et même toutes compétitions confondues. Et ils le sont toujours parce qu'il y a une tête de Stanisic à la 97e minute qui permet au Bayer Leverkusen de prendre un nul. Et donc l'équipe de Xabi Alonso est toujours invaincue cette saison. L'exploit est encore possible. Il reste 4 journées de Bundesliga pour au moins faire le championnat invaincu. Ils sont déjà champions d'Allemagne, évidemment.
C'est exceptionnel. Mais ça fait 6 ou 7 fois qu'à la 89e minute. Alors il y a des gens qui te disent finalement il y a une forme de logique, le Fergus Times.
Tu fais 6 fois
Ok. C'est vrai, mais on est un peu dans le paranormal.
Et c'est exceptionnel.
Il y a les deux. C'est exceptionnel.
Parfois même de 2 buts, ils sont menés et ils renversent.
Des nouvelles de Liverpool, ce qui fera plaisir à Dave Apadou. Victoire cet après-midi face à Fulham.
La course au titre qui fait rage en Angleterre et Liverpool avait à cœur de se racheter entre l'élimination en Ligue Europa et la défaite à Palace dimanche dernier. Et regardez ce coup franc magnifique de Trent Alexander-Arnold. Ça fait 1-0 pour les Reds. Égalisation de Fulham à Craven Cottage. Le but de Timothy Castagne, un partout. Mais les Reds vont faire la différence en seconde période. But de Ryan Gravenberch à la 53e minute. Il est assez joli.
Bon joueur.
Et 3-1 à la 72e grâce à Diogo Jota. À l'heure actuelle, Arsenal et Liverpool ont 74 points. Manchester City 73. Mais les Citizens comptent un match de moins. C'est très très chaud.
Elle est morte l'histoire. C'est
fini. Comment ?
Ça s'est joué le week-end dernier.
Vous pensez que City va être champion?
Bah, vous avez vu le calendrier?
Oui. C'est un peu plus favorable.
Et la 66, hein, c'est.
Prenez oh, dans les références ce soir, c'est un régal, Ludo.
Pour le coup, je souffle.
Manchester United a eu beaucoup de difficultés cet après-midi en demi-finale.
United a frôlé la correctionnelle en demi-finale de la Cup face à Coventry, une équipe de Championship. Pourtant, les Red Devils menaient 3-0 à l'heure de jeu, avec notamment ce but de Bruno Fernandes. Et là, incroyable, Coventry va revenir à 3 partout. D'abord le but du 3-1 à la 71e, puis une frappe déviée 3-2 à la 79e, pénalty à la 95e, ça fait 3 partout. Coventry qui va même marquer le but du 4-3 à la 121e minute. Sauf que ce but est refusé pour un hors-jeu de quelques millimètres. Regardez. Et les Mancuniens vont finir par s'en sortir au tir au but avec les ratés du côté de Coventry. Et donc United affrontera City en finale de la Cup.
Eh ouais. Décision encore qui fera parler en.
Comme Brest, Greg.
Ben oui, je pense qu'on arbitre plutôt mieux les gros que les petits.
Coventry dérange.
Coventry dérange, effectivement. C'est peut-être la phrase de la soirée. Allez, on va passer maintenant au vélo avec la victoire de Pogacar sur Liège-Bastogne-Liège.
Une nouvelle démonstration de la part du Slovène largement au-dessus de la concurrence. Une fois encore, on connaît le mode opératoire. Une victoire en solitaire après avoir semé tout le monde suite à une attaque tranchante. C'est ce qui s'est passé dans la redoute. L'un des hauts lieux de Liège-Bastogne-Liège, c'était à 34 km de l'arrivée. Et après, plus personne ne l'a revu. Sixième victoire sur un monument pour Pogacar, le deuxième à Liège. Et on notera la belle deuxième place de Romain Bardet qui a attaqué à 13 km de l'arrivée. Il a terminé deuxième tout seul. Et Mathieu Van Der Poel termine troisième après son doublé Tour des Flandres Paris-Roubaix.
On va maintenant passer à la fin de la 21e journée de Top 14 avec le choc entre l'Union Bordeaux-Bègles et Clermont.
La démonstration des Bordelot-Bègles qui a enregistré le retour de leur ouvreur Mathieu Jalibert après plusieurs semaines de blessures. Il y a notamment un homme qui a fait très très mal à son ancienne équipe, c'est Damien Penaud, l'ailier du 15 de France. Il a inscrit un triplé ce soir, 3 essais donc pour Damien Penaud. Victoire 41-7 de l'UBB. L'UBB qui remonte à la 5e place et qui est donc pour le moment en tout cas qualifié pour les playoffs. La SM est 12e, premier non relégable. Il faudra faire attention pour Clermont qui risque peut-être de jouer le maintien jusqu'au bout, en tout cas le barrage.
Romain, il y avait une superbe affiche ce soir sur la chaîne L'Équipe, c'était du basket, le choc entre l'ASVEL et Paris Basket.
Avec la lutte pour la deuxième place de la saison régulière comme principal enjeu de ce match, et le Paris Basket a signé une excellente opération en laminant l'ASVEL sur son parquet. Une grosse victoire grâce notamment à TJ Shorts et Nadir Ifi, 41-2. Victoire 86-66 du Paris Basket dans ce match. Paris qui prend une option pour la deuxième place. On rappelle que Monaco est assuré d'être premier. L'ASVEL est désormais quatrième derrière Bourg-en-Bresse.
On reste basket, mais cette fois, c'est de la NBA avec les playoffs. Ce soir, il y avait notamment un premier match de la série entre Boston et Miami.
Et les Celtics qui avaient le meilleur bilan de la saison régulière en NBA. Et ils ont attaqué pied au plancher ces séries. Un large succès, 114-94 face à Miami, avec notamment un triple-double pour Jason Tatum. 23 points, 10 rebonds, 10 passes. Ça, d'ailleurs, le match a d'ailleurs débuté sur un 14-0. Le Heat ne s'en est jamais remis. Donc 1-0 dans la série et le match 2, ce sera dans la nuit de mercredi à jeudi.
Ouais, et on rappelle que Jimmy Butler est absent. Pour conclure ce merveilleux Minuit Info, Romain, c'est du tennis avec Casper Ruud qui a remporté le tournoi de Barcelone.
C'était déjà l'affiche de la finale du Masters 1000 de Monte Carlo la semaine dernière. Une finale remportée par Tsitsipas. Et les deux hommes se sont retrouvés en finale à Barcelone. Et cette fois-ci, c'est Casper Ruud qui était le plus fort, alors que le Grec avait d'ailleurs largement dominé la finale monégasque dimanche dernier. Victoire en 2-7, 7-5, 6-3 du Norvégien. C'est le 11e titre de sa carrière, le plus prestigieux sur cet ATP 500. En tout cas, Ruud et Tsitsipas qui seront des outsiders à Roland-Garros.
Merci beaucoup Romain, merci à tous. Demain, grosse journée sur la chaîne L'Équipe, L'Équipe de Choc avec Brahim Asloum pour parler de Rocky. Et puis 20h15 en prime, le début de la saga merveilleuse de Rocky Balboa. Excellente nuit, excellente soirée sur la chaîne L'Équipe.